Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans l'émission Au bout du foot, une émission 100% football. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour cette émission de football. Avec nous ce soir, Moussa, comment ça va Moussa ?
Très bien, très bien.
Bonne semaine de football ?
Oui, on a de quoi parler. Ouais.
On a de quoi parler, ça c'est sûr. Cheikh Kenza, comment ça va ?
Bien, très bien, vous ?
Ça va, merci, tu m'as l'air fatigué un peu.
Non, ça va, ça va.
Ça va, j'espère que t'es d'attaque hein, parce qu'il y a beaucoup de sujets à traiter là.
Pas du tout.
Hein ?
Pas du tout, je suis là.
Pas du tout, mais tu es là.
Ouais.
Ok, c'est pas très rassurant, mais.
Si, je suis rassuré.
Ok, d'accord. Jason, comment ça va ?
Comment ça va et toi, Elad ?
Ça va, super. Bonne semaine de football ?
Là, ça a été, hein, avec deux Jasonico qui sont passés là, un la semaine et le week-end. Les deux ont gagné une manche chacun, mais après, voilà, le cœur a été partagé, mais ça a été.
Ça a été. C'est le plus important en tout cas. Théo, toi, tu n'as pas changé de place ?
Eh non, je suis resté là, moi.
Ça va, Théo ?
Ça va, les gars, tranquillement.
Ça va. Bonne semaine de football ?
Toujours, hein. Toujours.
Toujours. Malgré la défaite du Paris Saint-Germain.
Un peu plus dur, un peu plus dur.
Oui, parce que le Paris Saint-Germain ont perdu. On va parler de la Ligue 1. Hein. Le Paris Saint-Germain se sont inclinés à domicile face à Monaco. 3-1, ce qui a permis à Lens de revenir à un point, tout simplement, en s'imposant 3-0 face à Metz. Florian Thauvin, auteur d'un but encore. Encore décisif. Florian Thauvin, est-ce qu'il peut croire potentiellement à la Coupe du Monde 2026 ?
Oui, il a de quoi. Il a déjà été appelé, donc il fait partie dans les dernières listes. Il était dans l'équipe. Donc Deschamps, on connaît Deschamps et sa manière de faire les équipes. Donc je pense qu'il a des chances, il a de fortes chances.
Mais contrairement à Tolisso, on pense qu'il en a un peu moins, même si lui est décisif depuis 4 matchs consécutifs, 4 buts en 4 rencontres dernièrement, lui qui a permis à Lyon tout simplement de rester à hauteur de Marseille, hein, 1-0. Marseille qui se sont imposés, Lyon ont fait 1-1 face au Paris FC dans le temps additionnel sur pénalty de Tolisso, et Marseille se sont imposés 1-0 grâce à un but de Greenwood. Greenwood encore pour l'instant qui est meilleur buteur de la Ligue 1 assez logiquement hein, et qui continue à performer du côté phocéen. En tout cas pour l'instant en Ligue 1 ça se passe pas trop mal pour lui. On va parler pour l'instant que de la Ligue 1 et ensuite on va revenir après sur la Coupe de France. Rennes, Franck Hez de retour à l'Allianz Riviera. Tout de suite il a posé les bases. 4-0 Rennes face à Nice. C'était bon. Nice ont eu pas mal d'occasions aussi, hein, avec un but refusé, hors-jeu, et beaucoup d'occasions, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence.
Moi, je t'avais déjà annoncé que le calendrier de Rennes allait être avantageux pour la fin de saison, et ça le démontre encore avec ce score large et sans pitié pour les Niçois. Rennes, Franquesque a bien analysé et était dans la continuité du précédent coach, en gardant la même formule, en ayant trouvé son milieu de terrain avec Camara, Rongier et en numéro 10, Szymanski, qui est très très bon au milieu de terrain. Et Rennes, qui reste sur sa période de continuité. Et franchement, attention. Moi, j'ai dit attention à Rennes, parce que Rennes, si Lyon et Marseille continuent à faire des faux pas, ça peut aller très 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 vite.
Ça peut aller très très vite. Hein. En tout cas, Rennes qui sont revenus à 3 points du podium. Voilà, ça joue plus qu'à ça. Théo, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Parisiens qui se sont inclinés 3-1 face aux Monégasques ? Les Monégasques aussi commencent à revenir dans la course, c'est ce qu'on disait juste avant. Et maintenant qu'ils n'ont que tout simplement le championnat à jouer, ils seront beaucoup plus compétitifs pour le reste des journées à venir. Qu'est-ce que tu en as pensé du match ?
Au global, une prestation assez inquiétante quand même du Paris Saint-Germain, qui est dans la veine de ce qu'on voit ces dernières semaines. J'ai eu un petit peu l'impression de voir une petite redite. Hein, donc, il y a eu 3 matchs face à Monaco. Encore une fois, Monaco a surpris Paris et c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que l'analyse tactique du match, je ne sais pas ce qui se passe du côté des coachs. 3 fois, il y a eu presque eu le même match avec le même pressing monégasque qui a pris à la gorge les Parisiens. L'absence de Ruiz, pour moi, manque cruellement à Paris. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour créer du mouvement. Dans le sens où là, il y a un immense pressing sur Vitinha. Et une fois que Vitinha est bien muselé, comme les Monégasques l'ont fait, bah, il n'y a plus aucune créativité au milieu de terrain parce que ce n'est pas Warren Zaïre-Emery qui va le faire. Ni Neves, que j'adore, qui est un petit peu plus emprunté physiquement et qui revient à peine là, de blessure, qui sera là sans doute pour Chelsea. Donc, performance assez inquiétante des Parisiens. Ils défendent moins bien, c'est criant. Ça presse moins bien en équipe, c'est moins bon dans les deux surfaces. Hein. Offensivement, c'est assez terrible le nombre d'occasions manquées à chaque match ou des choses comme ça. Bien que les gardiens en face fassent aussi des bons matchs et c'est tout à leur crédit. Et ouais, c'est pour le coup une victoire méritée de Monaco. Et je pense que sur les trois confrontations, ils méritaient bien de gagner au moins un match parce qu'ils n'ont pas été, aidés par les différents scénarios avec les cartons rouges, les choses comme ça. Donc il faut mettre du crédit sur la performance de Monaco qui a très très bien joué surtout.
Merci Théo. On rappelle tout simplement que le Paris Saint-Germain se sont inclinés à l'aller en Ligue 1 face à Monaco et au retour aussi. Hein, donc ça fait match aller, match retour. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette prestation, toi, des Parisiens face au Monégasque ?
Bah, Paris, le Paris de cette année, les matchs se ressemblent beaucoup. Et surtout, c'était un adversaire comme Monaco qui, j'ai l'impression, qui a bien analysé Paris et qui a des fortes individualités. Ils ont compris que le match se faisait au milieu de terrain. Et quand tu vois le match de Camara qu'il a fait contre Paris, que ce soit même les matchs de Ligue des Champions, franchement, il a gagné. Bah, Monaco a gagné la bataille du milieu de terrain et a fait déjouer Paris. Paris n'arrivait plus à ressortir les ballons proprement, la grande force que Paris avait. Et je pense que oui, l'absence de Fabian Ruiz, c'est compliqué. C'est compliqué pour Paris. Et si tu rajoutes ça, le fait qu'il ne soit pas décisif dans les deux surfaces, que ce soit en attaque et en défense, qu'ils se prennent des buts, c'est pas souvent qu'ils fassent des clean sheets. Donc ils laissent des points perdu, et là Monaco avec un très bon effectif. Pocognoli au début a un peu galéré, mais je pense qu'il a trouvé la bonne formule, et Monaco, je pense, va terminer très bien la Ligue 1 et je pense être dans les 4 premiers.
Surtout qu'ils avaient énormément de blessés encore, ouais. Quoi. Ils n'ont pas l'effectif au complet. C'est quand même assez inquiétant de voir Paris galérer autant face à une équipe décimée.
Après aussi, faut dire que la formule de Paris ne change jamais.
Donc, c'est toujours la même chose.
Monaco les a affrontés 4 fois. Donc au bout d'un moment, quand tu joues contre toujours la même formule, tu finis par savoir ce qui peut, ce qui peut jouer contre toi, et tu connais les points faibles de l'équipe adverse. Donc au bout d'un moment, quand Paris n'a pas tous ses éléments au top,
et le physique,
qui commence un peu à pêcher, Monaco a fini par faire mal et là, par gagner. Et c'est tout à fait normal que au bout de deux confrontations de Ligue des Champions, Monaco finisse par s'imposer parce que ça s'est joué à rien. Déjà, le match retour de Ligue des Champions s'est joué à rien du tout. Et ben, cette fois-ci, ça a été la bonne.
Est-ce qu'on peut dire aussi que le Paris Saint-Germain, tout simplement, a été en dessous de Monaco? Et même si on revient sur la Ligue des Champions, c'était une victoire très...
À l'arraché, en fait.
Voilà, à l'arraché, très laborieuse, en tout cas, on peut le dire. Surtout le match aller, ils ont gagné de 1 but. Et le match retour, il y a eu match nul.
Oui.
Voilà, et ils étaient quand même à 10. Et ils ont quand même eu une occasion de balle de match pour revenir encore dans le match. Donc, est-ce que même avant ce début d'année, est-ce que... Tout simplement, les Monégasques ne sont pas un problème pour le Paris Saint-Germain parce que il n'y a pas eu une seule fois où le Paris Saint-Germain, c'est 4 fois qu'ils ont joué contre Monaco, il n'y a pas une seule fois où ils les ont dominés et surclassés.
Du bout en bout, disons.
Voilà. Donc, même s'il les surclasse une fois, après, on veut bien dire que oui, maintenant ils connaissent la tactique, etc. Mais ils les ont jamais dominés cette saison. Jamais. Ils n'ont pas gagné un match. Ils ont gagné un match 3-2, mais c'était très laborieux avec un carton rouge, deux cartons rouges aller-retour en Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'on peut dire que Monaco sont au-dessus du Paris Saint-Germain ?
Bon, moi, je crois que vraiment, Monaco, ils savent mieux appréhender les matchs face au Paris Saint-Germain, parce qu'en fait, il n'y a pas que le PSG, mais avec les autres équipes, ils galèrent un peu. Vu vraiment la tactique, comme il a dit tout à l'heure, la tactique du PSG qui ne change pas, hormis peut-être quelques animations offensives de ce niveau, on connaît Lucien Riquet, vraiment quelqu'un de figé, qui a peut-être son 11, qui va peut-être juste réajuster au niveau du milieu de terrain. Mais face aux confrontations, face au Monégasque, on a vu que le milieu de terrain Monégasque, d'entre-jeu, était vraiment assez fourni. On a eu Lamine Camara vraiment qui arrivait à se projeter, qui arrivait vraiment à prendre de l'audace et tout ça, à faire des remontées de balles, remonter le bloc et aussi peut-être créer le déséquilibre. Et vu que vraiment, il n'y avait pas un Fabien Ruiz qui a souvent pêché, et au niveau du PSG, on a vu vraiment que cette organisation peut-être autrefois l'année dernière qui faisait un peu la différence face aux équipes, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, disons le milieu de terrain vraiment qui était travailleur, les uns vraiment arrivaient à faire des efforts pour les autres, c'est pas le cas parce que chaque pec de balle parisienne a été vraiment une occasion susceptible pour le Monégasque de les mettre en danger. Quand on regarde le premier but, ça vient sur une pec de balle et ensuite les Monégasques ont été chirurgicales déjà avec Akluche dans le temps de match. Ensuite quand on regarde le match de Lamine Camara d'Aladji aussi qui fait un super match qui permet vraiment, qui ratisse les ballons, qui permet aussi à Camara de prendre un peu l'air de jeu, en fait de jouer un peu libre en se disant que oui, qu'il y a la régate qui est là, quoi qu'il arrive. Le PSG vraiment n'a pas présenté grand-chose, hormis quelques actions. J'ai vu que aussi la défense aussi a été un peu décimée. Pacho qui n'a pas été du tout concentré quand on regarde vraiment ces derniers matchs, on voit que ouais, ce n'est pas le même Pacho qu'on avait. C'est pas si c'est la complémentarité avec Zabarni qui cause problème ou peut-être qu'il n'y a pas encore les mêmes automatismes, mais j'ai senti vraiment le PSG, toute l'équipe du Paris Saint-Germain en ce moment, j'ai senti qu'ils n'étaient pas concernés par ce match. Vu les 4 matchs même, il a gagné 7, mais pas avec, comment dire, avec une maîtrise totale de leur sujet, comme il avait fait peut-être l'année dernière, à la même période des compétitions.
Non, mais c'est surtout que j'ai l'impression que le PSG cette année est très lisible. C'est-à-dire que tu l'analyses très rapidement parce que ce qui faisait la grande force de l'année dernière, c'est les mouvements un peu partout. Si tu arrivais à prendre un peu Vitinha, tu avais Hakimi qui montait, donc tu faisais qui rajoutait un joueur en plus. Du coup, mais là, cette année, Hakimi, depuis sa blessure, c'est compliqué. Nuno Mendes, qui est très bon, Nuno Mendes, mais bon, à un moment donné, physiquement, ça ne peut pas tenir toute l'année aussi. Et avec les blessures de Neves qui est là une fois sur deux, le Russe qui n'est pas là depuis un moment. Ça fait tout ça mis bout à bout, c'est compliqué pour Paris.
Mais après, le truc, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur l'année passée, parce que l'année passée, c'est une année où tout s'est bien déroulé.
Ouais,
et là, Paris, justement, tombe dans une année où il retombe dans la réalité, en fait. Où il y a des pépins, où les joueurs récupèrent moins bien de leurs pépins. Donc, ça veut dire, par exemple, un Hakimi qui n'a plus la même aisance que l'année dernière, où il marchait complètement sur l'eau.
Toute
l'équipe. Ouais. Et du coup, cette année, quand tu te confrontes à ça, eh bien, tu vois que quand tout le monde n'est pas à 100%, eh bien, Paris est prenable.
Ouais, tu as raison.
Mais que c'est naïf dans l'approche du coup, des dirigeants et du coach de ne pas agir en conséquence. On savait très bien que cette année ne sera sans doute pas aussi glorieuse que l'année passée. Néanmoins, on peut espérer, entre guillemets, anticiper le fait que bah ouais, les joueurs seront fatigués après avoir joué autant de matchs avec en plus la Coupe du Monde
des clubs. Après, je pense que c'est Lucien Riquet qui n'a pas voulu ajouter de joueurs.
C'est quand même questionnable et je pense qu'en fonction de ce qui se passera mercredi et la semaine prochaine où on donnera rendez-vous à la fin de la saison, etc., je pense que potentiellement, il pourrait, entre guillemets, rendre des petits comptes là-dessus dans le sens où il faudra au moins qu'il s'explique sur sa vision des choses. Quoi.
Bah après, sur ça, ce qui le rendait crédible, c'est que quand il a eu besoin des remplaçants, l'année dernière, ils ont répondu présent. Donc cette année, il s'est dit peut-être qu'en ayant un rôle plus important, il réussirait à faire la même chose que l'année dernière. Et au final, on se rend compte que
non. Je te parle surtout de vrais problèmes dans le sens où t'as pas de latéral gauche, en dehors de Mendes, t'as pas de latéral gauche.
T'as le choix du gardien aussi.
Bah, en principe, il joue avec Lucas Hernandez à gauche.
Oui, on parle d'un joueur qui soit capable, entre guillemets, dans ma vision des choses. Quoi. Pareil,
de concurrencer Nuno Mendes,
voilà.
Disons.
Pareil du côté d'Hakimi.
Bah après, Zaire Emery, il a bien joué.
Mais là, le problème, c'est que Neves n'est pas là, quasiment. Enfin, il revient de blessure. Ruiz n'est pas là.
Et Vitinha qui est KO.
Vitinha est mort, cuit. Il n'en peut plus parce qu'il a toujours 3 joueurs sur lui tout le temps. Enfin, il doit porter le milieu devant, à lui tout seul. Devant, ça ne marque pas. Ouais. Au milieu de terrain, tu n'as plus personne.
Oui.
T'as plus personne au milieu de terrain. Tu as Drou Fernandez. C'est un projet d'avenir. On ne peut pas lui demander tout de suite. C'est compliqué. Tu redescends Doué potentiellement au milieu ou Lee.
Mais
pourquoi
il a pas
trop fait cette année, tu perds d'impact physique. Fin...
Et parfois, avant, ce qui fait plus, c'est qu'avant, il mettait Mayulu aussi.
Ouais, et Mayulu a totalement disparu. Hein. Il est revenu de blessure et le dernier match, son entrée n'était pas superbe. Ouais.
Mais il y en a un qui a disparu, je connais,
c'est
je John sais plus son nom.
Voilà, John Too.
Il est blessé aussi.
Il est blessé gravement, lui.
Et Mbaye, depuis son retour à la CAN, c'est compliqué. Il a pas beaucoup de minutes et quand il rentre, il les bonifie pas. Donc.
Bon après, si même les jeunes sont blessés, il n'y a plus rien à gratter.
Mais au début de saison, je crois que ça avait marché parce qu'on avait vu une certaine rotation au niveau de Luis Enrique qui essaie déjà en fait, d'inclure tout le monde, en fait, de les concerner face à cette saison. Mais je crois qu'avec peut-être le rythme de match et au fur et à mesure que peut-être qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas encore peut-être, cette assurance, peut-être cette vérité, cette... en fait, initiative de prendre les choses en main, ça a été un peu compliqué, parce qu'avec le temps, vous avez parlé de Rô Fernández et tout, qui est arrivé, mais qui est des jeunes, mais sur lesquels on ne peut pas miser. On ne peut pas avoir les mêmes attentes, par exemple, d'un Joao Neves ou d'un Vitinha face à un Rô Fernández, qui est un peu compliqué. Et ça, les équipes de Ligue 1, c'est des choses qui sur lesquelles ils vont s'appuyer. Pourquoi, voilà, pourquoi pas essayer d'aller titiller un peu le PSG et Lance est capable de faire le coup, hein, parce que dans cette spirale-là.
Oui, j'allais y revenir justement, parce qu'on en parlait il y a quelques semaines et il y en a beaucoup autour de la table qui disaient qu'ils ne voyaient pas Lance continuer à mettre la pression en vue de leur calendrier et de ne pas tout simplement aller prendre ce titre. Or que là, il n'y a qu'un petit point de différence en sachant que le Paris Saint-Germain ont des grosses échéances à venir. Et ils vont jouer aussi contre Lens. Est-ce que le tournant n'est pas là? Là, ils sont à un petit point.
Depuis le début, je le dis, le tournant, ça va être ce match.
Ouais, ça va être le match là.
Depuis le début, ça fait peut-être 3-4 semaines à chaque fois que je suis présent en émission, je dis n'enterrez pas Lens. Lens, la finale, elle se jouera face au PSG.
En avril.
Et petit à petit, ça commence à se décrire et je pense que ce match-là sera décisif. Et l'équipe qui gagnera cette confrontation aura de grandes chances de remporter le titre. Mmh.
Ah, je pense aussi, ouais. ça va se jouer sur ces matchs-là.
Mais après, là où je tiens à dire les choses, c'est qu'on demande au Paris Saint-Germain aussi de recruter. Mais le problème, c'est que quand tu recrutes des joueurs, admettons à la hauteur des titulaires, c'est que quand tout le monde est présent, qui joue?
C'est ça. Et je pense que
mais c'est normal que même dans l'augmentement, ils sont censés vraiment faire savoir à certains joueurs que même si vous venez, déjà vous serez dans la rotation. Parce que quand on arrive dans un club.
Oui, mais si tu prends un joueur à la hauteur de ton titulaire, tu ne peux pas lui dire t'es remplaçant.
Non, mais ça, il y aura de la concurrence maintenant aux joueurs de prouver. Oui, parce qu'en fait, tout grand vestiaire, c'est doit d'avoir au moins
c'est la fausse concurrence.
Doublé ou
tu vois, par exemple, les équipes qui sont en Angleterre comme Guardiola ou comme Arteta, ce qu'ils font, eux.
Ils ont un titulaire type.
Non, mais même ça leur dérange pas. Moi, j'ai l'impression que Luis Enrique, il veut pas se tracasser avec 20 joueurs.
Ouais, il a son équipe.
Il a son équipe. Et
après, ça tourne de temps en temps, mais parce que c'est le plus dur, ça.
Moi, j'ai l'impression, après, je sais pas, surtout, je me trompe. Hein.
C'est comme Théo, tu disais, par exemple, s'il prend un arrière droit. S'il prend un arrière droit, admettons à peu près du niveau de Hakimi. Mais sachant que Hakimi, c'est un mec qui joue quasiment tout le temps.
Non, mais je te demande pas de prendre un mec équivalent, mais simplement d'avoir quelque chose de valable si jamais il y a un pépin. Dans le sens où là, si Hakimi commence à se péter, si Neves ne revient pas de manière totale, ça va devenir
compliqué.
Mais
s'il se pète pas, comment ça se passe?
Oui, évidemment, mais là, c'est du foot-fiction. Là, on parle de, par exemple, vous donnez l'exemple de... on peut pas prendre des joueurs à peu près équivalents.
Enfin, non.
L'hiver dernier, on est allé chercher Kvaratskhelia à Naples. Pour le mettre dans les pattes de Barcola.
Mais Barcola, c'est pas quelqu'un qui est irremplaçable.
Mais il était titulaire et on s'est posé la question
Il était bon à ce moment-là.
Il était bon, mais parce que devant, il n'y avait personne aussi.
On s'était posé la question de qu'est-ce qui va devenir Barcola. Est-ce qu'il sera vraiment titulaire ou est-ce qu'il sera totalement remplaçant, éclipsé ou quoi? Il y a eu une rotation et je trouve que ça s'est bien passé.
Mais regarde, après, tu vois, cette année, la rotation, elle est beaucoup moins bonne parce que Zvara, en fait, tout le monde veut jouer à gauche.
Moi, je pense qu'il y a des postes
c'est
à Paris.
Doué Barcola et Zvara à gauche.
Donc, au final, la rotation du côté droit, elle ne fonctionne même plus.
Et même, là, tout à l'heure, on parlait des jeunes, des remplaçants, mais ceux sur qui Paris doit compter, c'est Zvara, Doué, et ils ne sont pas là cette année. Dembélé qui est blessé, bon,
c'est
on peut le
dire.
Barcola aussi qui a joué beaucoup. Bon, c'est pas qu'il est mauvais, mais qu'il concrétise pas ses occasions.
Il est fatigant. Il est fatigant, franchement. Hein.
Pour ça,
excusez-moi, messieurs, on va juste poursuivre. Hein. Marseille qui sont imposés à Toulouse, 1-0. Et Lyon qui ont été tenus en échec. Face au Paris FC, 1-0. Est-ce que vous comprenez le choix de Fonseca de mettre Hendrick, Tolisso, tous les cadres sur le banc et de démarrer un peu au petit trot face au Paris FC et ensuite après faire rentrer les cadres quand ça ne va plus?
Ça se comprend et c'est tout à fait normal. Faut les faire souffler parce qu'ils enchaînent. Ils ont ce week-end, ils jouent aussi l'Europa League, donc ils sont sur plusieurs tableaux. Ils ont joué la Coupe de France aussi la semaine dernière. Si tu commences à tirer un peu sur tout le monde alors que leur effectif il est assez réduit, au bout d'un moment, tu vas perdre carrément tes joueurs.
Et je crois que Tolisso, il avait un petit pépin.
Et il y a la fatigue aussi qui entre en compte. Hendrick, c'est quelqu'un qui n'a pas joué la première partie de saison. Et s'il commence à trop enchaîner, il peut se péter. Donc, obligé de faire tourner, alors qu'on sait que les remplaçants de Lyon ne sont pas forcément à la hauteur. Mais tu es obligé de faire tourner. Et en principe, dans l'aspect, le Paris FC n'était pas censé être un danger pour Lyon. Mais bon, vu le match qu'ils ont sorti hier, Camboiré, il commence à faire une équipe commando. Et franchement, attention aux prochaines équipes qu'affronte le Paris FC parce qu'ils sont là pour faire perdre des points.
ils sont là pour faire perdre des points, en tout cas c'est le cas de le dire. Mais dans ce système là, moi je ne comprends pas, hein. si tu n'es pas le PSG et que tu n'es pas premier et que les points tu te dis je peux les rattraper plus tard, dans une course comme ça, en sachant que tu viens de perdre l'Olympique juste avant face à Lyon, moi je préfère même tu fasses tourner en Coupe d'Europe, en Ligue d'Europe.
Non, ils veulent aller plus loin en Coupe d'Europe, il a joué à fond.
Ils ont un tableau favorable.
Oui, mais bon, pour moi, à ce moment-là, t'es obligé de faire un mix des deux. Tu peux pas mettre Hendrick, Tolisso, etc. Pour
mais
moi,
parce que s'il les met ce week-end, ça veut dire qu'il les met remplaçant en Europa League.
Non, pour moi, même, tu les mets au début, ils terminent pas le match. Mais tu les mets au début pour que tu prennes une avance. Et à ce moment-là, tu fais rentrer le reste. Pour moi, le fait d'arriver là, parce que là, en fait, là, tout simplement, ils se sont exposés à ce qu'ils ont eu, la punition qu'ils ont eu, et encore là, ils s'en sortent avec un point. Différence de but, Marseille sont quand même devant eux, mais ils auront pu très bien terminer.
Mais parce que souvent, la logique.
Quatrième et perdre un point en plus.
Ouais, mais parce que souvent, la logique dans le foot, c'est que tu mets les remplaçants et tu vois comment ça se passe, et après, tu fais rentrer les titulaires. Ouais. Par exemple, quand tu vois, par exemple, en Coupe, par exemple, je suis déjà en Coupe d'Angleterre, c'était comme là, Arsenal. Ils ont mis les remplaçants, dès qu'ils ont vu que ça a commencé à titiller. Ils ont fait rentrer les cadres et ils ont fait la différence. Mais ça ne marche pas tout le temps. Mais la plupart du temps, si tu souhaites reposer tes cadres, tu es obligé de fonctionner comme ça. Parce que si tu les fais tout le temps commencer et admettons, ça ne se déroule pas comme toi tu le souhaites, ben au final, tes joueurs ils vont jouer 70 minutes, 80 minutes. Tu vas les tuer et ta saison, tu ne vas pas tenir. Ouais.
C'est sûr, mais bon, là, on arrive dans le dernier run. C'est ce que je disais. On aurait dû gérer un peu avant parce que là, on arrive dans le dernier run et ça va être compliqué. En tout cas, voilà pour tout ça. Lille encore tenue en échec face à Lorient. 1-0. Hein. Strasbourg aussi qui ont calé face à Auxerre 0-0. Voilà pour les résultats de la Ligue 1. On va juste rappeler le classement. Paris Saint-Germain premier avec... avec 57 points, avec un point de plus que Lens, les Lensois deuxième avec 56 points qui ont 10 points de plus que les Marseillais et Lyon à égalité. Marseille qui sont repassés devant Lyon avec une différence de but meilleure. Oui, du coup, Marseille 46 points et Lyon aussi 46 points. Et on a Rennes 5e avec 43 points, ils sont plus qu'à 3 points. Lille 41 points 6e et Monaco qui ont 40 points et qui sont 7e. Voilà, Monaco sont séparés du podium de 6 points aussi. Il reste 9 journées, tout est encore jouable.
Oui, tout est encore jouable.
Tout est encore jouable. Pour le bas de tableau, Metz avec 13 points qui sont inclinés. Nantes qui sont inclinés aussi avec 17 points et Auxerre qui ont fait match nul et qui ont 19 points mais qui sont toujours à 5 points de Nice. Ça devient compliqué pour ces trois équipes-là en tout cas de s'en sortir. Voilà pour la Ligue 1. On va enchaîner directement avec la Coupe de France. Hein. Coupe de France, coup de tonnerre hein, tout simplement. Marseille éliminé de la Coupe de France au tir au but après 2-2 face à Toulouse. Prévisible, ou ça ?
Ouais, prévisible. Marseille n'était pas sur une bonne dynamique. Après, le match, moi je trouve que Marseille a laissé passer le match parce que prendre ces buts-là sur coup de pied arrêté en plus. Après, Toulouse est très bon en coup de pied arrêté, mais bon, c'est des erreurs individuelles. Et après la séance de tir au but, là c'était compliqué. Là. Des cadres qui n'ont pas voulu tirer, de ce que j'ai compris. Des joueurs qui tirent mais qui ratent. On envoie le petit jeune 18 ans à la fin. Franchement, non, c'était...
Quand qui n'a rien à voir avec le club.
Qui n'a rien à voir avec le club.
Qui est arrivé il y a 5 jours. Lui, il voulait être coaché par son papa, entre guillemets, Roberto de Serbie. Finalement, qui est viré. Le président qui l'a fait venir est viré derrière. Enfin, il est démis de ses fonctions. Le directeur sportif démissionne. Mmh. Ensuite, revient avec les pleins pouvoirs. Et lui, dans tout ça, il est là. Il veut juste jouer au football. Il a quitté Arsenal pour ça. Arsenal, quand même, qu'on rappelle, qui joue le titre en Première Ligue, en Ligue des Champions, en FA Cup, en fait partout tout simplement, et il est arrivé dans un club où il ne joue strictement rien, il est arrivé, ils sont sortis en Ligue des Champions, Coupe de France, ils viennent de sortir, et là en Coupe de France, t'arrives en 5e tireur, et toi, tout ça repose sur toi, t'as plus de 60 000 personnes qui sont en train de huer dans le stade et pousser, et t'as toute cette pression sur les épaules. Est-ce que c'était une bonne décision de faire tirer Nouanéri, surtout en tant que cinquième et penalty aussi décisif, quoi.
Mais même en revenant avant ça, déjà, je rembobinais un petit peu parce que quand tu vois l'aspect du match, Je te dis, c'est pas possible. Tout se passe bien. Marseille qui ouvre le score. Mais de là, ils ont pas continué à jouer leur jeu à fond, en fait. Dès qu'ils ont ouvert le score, ils ont commencé à se dire tranquille, on a le temps, au lieu d'aller pousser et de mettre le deuxième tout de suite. Et de là, tu as laissé espérer Toulouse. Et Toulouse n'a pas rigolé. Hein. Tout de suite après, égalisation. Puis dans le match, les équipes, ils ont commencé un peu à se valoriser. Tout ce qu'il ne faut pas, parce que sur le papier, en principe, Marseille est au-dessus, mais quand tu vois des prestations de Abdelli, j'avais l'impression Abdelli c'était un petit du centre de formation que tu mettais sur le terrain et qui avait peur de tout faire.
Putain, c'est un genre de qualité, mais
il osait pas. Ouais. Et là c'est que tu vois que Marseille c'est pas non. Angers.
Ouais, c'est ça.
Alors que Angers, tu mets Abdelli à Toulouse, t'as l'impression que c'est Ronaldinho.
Ouais, ça c'est, j'étais d'accord. C'est
et vrai. Là quand on le voit à Marseille, non, caca culotte en gros, il arrivait à rien faire. C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Et c'est pas possible de prendre des buts sur coup de pied arrêté comme ça. C'est même pour te dire, le dernier coup de pied arrêté, l'entraîneur de Toulouse, il a célébré comme si c'était un péno.
Ah ouais.
Tellement il savait la fébrilité de l'Olympique de Marseille. Quand il y a un tireur, quand il y a le corner qui est frappé, quand tu vois les ralentis, il n'y a personne pour mettre la tête. Il n'y a personne qui suit un joueur toulousain.
Ouais, c'est ça. Il le laisse venir alors qu'il est lancé. Bon, après...
Alors que déjà, les défenseurs toulousains, c'est des mastodons.
Ouais, ils sont tous grands.
Déjà, si tu ne leur bloques pas la course dès le départ, bah, c'est mort. Et en revenant pour la séance de péno, oui, il y a des joueurs qui ont manqué de coronès. Eux, ils se sont dit, si ça foire, il ne faut pas que ça soit de ma faute.
C'est ça.
Tu vois, comme ça, au moins, on ne parle pas de moi et on s'en prend à tous ceux qui ont tiré. Et Balerdi, ce que je ne comprends pas, c'est que Balerdi, il avait déjà raté contre Annecy.
Contre Annecy.
Et là, il a revoulu montrer en gros, ah, le club, moi, je suis là, tatati, tatata. Et regarde, il s'est encore plus enfoncé en ratant ce penalty. Je ne sais pas pourquoi on fait tirer des défenseurs centrales dès le début comme ça, alors qu'il reste beaucoup d'avant-centre et de milieu de terrain.
Est-ce que Balerdi ne voulait pas aussi confirmer et se dire, voilà, vous m'avez démis de mes fonctions, entre guillemets,
il s'est pas tiré.
Non, c'est même pas ça.
Et je viens tirer. Agarde non plus.
Parce mais oui, même lui, j'ai pas compris.
Parce que Agarde a beaucoup de chance. Hein. Séance de tir au but.
Mais en plus, après, il fanfaronne.
Non, mais moi, j'ai l'impression.
C'est ridicule.
Ces joueurs-là, ils devaient pas tirer. Je pense qu'il y a des joueurs qui étaient désignés, qui n'ont pas voulu tirer. Et forcément, il faut mettre 5 joueurs. Après, ils se sont désignés, ils se sont dit, bon, bah, si personne tire, moi, je tire. Je pense que ça s'est passé comme ça.
Mais les milieux de terrain, ils sont passés où dans cette séance?
Bah, ils ont pas voulu tirer.
Ils ont pas voulu tirer. Je pense qu'ils ont pas voulu prendre la responsabilité.
Ouais. Non, moi, c'est un truc que Habibev, il se doit de préparer parce que quand on arrive en Coupe de France.
Ah oui, ça n'a pas été préparé.
Mais ça, c'est un truc. Même si tu le prépares, sur le moment venu. Oui, mais ça, sur le moment venu, ça ne change pas. Devant 60 000 spectateurs, truc, etc. Ça ne change strictement rien.
C'est des footballeurs.
Même sans des footballeurs.
C'est pas psychologique. C'est des êtres humains. Normalement, psychologiquement, ils sont préparés. Ils savent que vraiment, que voilà, qu'il y aura de la ferveur. Ils savent aussi qu'il y aura de l'engouement.
Donc, tu crois vraiment qu'ils sont prêts psychologiquement avec tout ce qui se passe depuis
avec tout ce qui se passe à Marseille,
ils sont pas prêts du tout. Ils sont pas prêts du tout.
Ce qu'ils voulaient tous éviter largement,
c'est les pénaltys.
Je pense qu'ils auront préféré même perdre dans le match qu'aller au tir au but. Parce qu'au tir au but, la pression, en fait, tu peux pas l'éviter et faut aller tirer.
C'est ça.
Et c'est ça, en fait. Quand ils sont tétanisés.
À la fin, il l'a dit, il y a des joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités. Donc du coup après il a pas cité de nom, mais
bah, ils sont
reconnaissants.
Bah oui, il y a eu 5 tireurs, il y a eu 5 tireurs sur 11. Bon, t'enlèves le gardien déjà, ça te fait déjà 10 et tu comptes les autres.
C'est ça.
Noaneri, tu te dis bon, c'est un petit prospect.
Noaneri, il comprend même pas français. Sais, ils ont dû lui dire ça.
Goal.
Ils ont dû lui dire, c'est ton tour. Il a dû dire, ok.
Non, mais c'est compliqué.
Peut-être pour lui, ça continue là. Après encore. Quand il a tiré en l'air.
Il a peut-être pas compris.
Il a peut-être pas compris.
De là, quand même, lui, il a vraiment cherché tout en haut du stade la frappe.
Il va parler comment avec Kondogbia.
Ah oui, c'est une très grosse pression qu'il avait.
Ça, c'est la pression, ça. Il arrive. En plus, c'est une coupe que Marseille n'a pas eu depuis
longtemps. Tu sais, il sait même pas. Ça se voit, on lui demande c'est quand ils ont gagné la Coupe de France. Il pourra même pas te dire. Je vous dis, c'est un joueur qui est arrivé il y a 5 jours. En fait, même le gardien aurait pu tirer. Ça aurait été mieux que Noaneri.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, dans ce sens-là, même au gardien, on en aurait moins voulu. Même Noaneri, là, on peut pas lui en
vouloir. Non, tu peux pas lui en vouloir.
Comment tu vas le... Tout le monde retient quel nom? Balerdi. C'est le nom que les gens retiennent.
Alors que Balerdi, quand il loupe. La séance, elle est pas finie. Parce que derrière, il loupe. Problème, mais tout le monde reste sur le péno loupé de Valérie.
Pourquoi il a tiré? On revient sur Aguerd aussi. Pourquoi il a tiré? Parce qu'il s'est pas tiré les pénalties.
Non, il s'est pas tiré.
On l'a vu le tout premier.
Il a eu énormément de chance que son pied n'était pas sur la ligne. Ça joue à quelques minutes. Avant, ça se regardait pas beaucoup.
Maintenant,
avec la VAR, ils font attention, ils rappellent. Et voilà. Sinon, même Aguerd, c'était compliqué. Séance. Alors, Théo, est-ce que tu peux nous dire. Donc, fin de saison catastrophique pour les Marseillais?
Je sais pas si on peut dire catastrophique ou quoi. En tout cas, à mon avis, elle n'est pas à la hauteur des attentes. Hein.
Une fin de saison en dents de scie. Hein,
exactement, elle est très, presque très marseillaise, j'ai envie de dire, parce que début de saison, beaucoup d'attentes et ça allait plutôt bien. Hein. Il y avait une vraie dynamique, ça jouait bien. On avait l'impression que De Zerbi avait enfin réussi à mettre en place son plan de jeu et le football qu'il voulait développer. Et bah, patatras, enfin, ça se casse la gueule graduellement et c'est de pire en pire. Ils sont sortis de Ligue des Champions sur un scénario ubuesque d'un but à la dernière minute,
gardien.
Du gardien, enfin bref. C'est galère, ils peuvent s'en vouloir parce que bon, il fallait faire mieux aussi à Bruges, hein. Très clairement. Là, c'est quand même dommage de sortir en Coupe de France, dans le sens où ils avaient vraiment une chance. Paris est sorti, là, Toulouse, c'était quand même abordable, c'était au Vélodrome. Enfin, fallait y aller, quoi. C'était vraiment enfin.
Ouais, chez toi,
et tout, en plus, tout le peuple marseillais était vraiment derrière en disant que bon, bah, on met un peu de côté ce qui s'est passé avec De Zerbi, tous les bordels avec le président, le directeur sportif qui part, en fait, qui revient, qui a les pleins pouvoirs. Enfin, bref, c'est Game of Thrones. Mais on met un peu de côté, il y a la Coupe de France, on se concentre. On va aller la chercher, ça fera du bien parce qu'il y a besoin d'un trophée à Marseille, hein, ça fait quand même pas mal d'années, il y a besoin de ça par rapport à tous les investissements ou des choses comme ça, et là tu mets un petit peu...
Je crois que quand Paris sort, ça met encore plus la pression à Marseille.
Oui, oui.
Parce qu'à chaque fois que Paris sort, ils sortent le tour d'après.
Ouais, c'est, ils sortent, dingue, ouais, c'est, vrai.
C'est incroyable.
Ah, c'est quand ils sortent Paris,
ils sortent le tour d'après.
Surtout contre une équipe encore plus bas.
Donc j'ai l'impression que dès que Paris sort, en fait,
mais y a un problème de
tout est remis sur eux. Donc ils se disent, c'est pas possible. En fait, tout le monde nous attend. Et le pire, c'est qu'ils sortent à chaque fois au Vélodrome.
En plus, hein.
C'est pas comme si t'allais dans un terrain bourbier à l'extérieur ou. Non, tu sors à domicile. C'est-à-dire, en gros, on te donne les cartes. Tiens, va au bout. Non, et toi, tu te sabordes chaque année.
La dernière fois, Balerdi avait encore raté au Vélodrome.
Oui, c'est ça.
De toute façon, ils iront jamais loin avec Balerdi. Moi, je fais que le dire depuis qu'il est là.
C'est compliqué. Hein.
Il a été de toutes les mésaventures, ce mec.
Mais qu'est-ce qu'il trouve tous les coachs ?
Ça fait 6 ans qu'il est là.
Il a toujours gardé presque le brassard de capitaine. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il trouve à ce joueur. Je sais pas si c'est
tous les coachs.
Il rate tout ce qu'il fait. Enfin,
en fait, il te coupe.
Mais oui. Il te coupe une dynamique. Des fois, il te saborde un match. T'es bien dans le match. Il fait une connerie. But adverse.
Il est toujours excusé.
Et toujours, il passe entre les mailles du filet. Je ne comprends pas.
Même moi, je comprends pas.
Je ne comprends pas. Là, il a encore raté. Et en plus, son penalty, qu'est-ce qu'il est mal tiré, franchement. C'est dingue.
Donne-la à la main.
Déjà, de base, on est d'accord qu'il devrait, entre guillemets, pas tirer. Enfin, il y a des gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Donc, il se retrouve peut-être là un petit peu malgré lui. Et il a quand même le courage d'y aller. Néanmoins,
il a du courage pour tout, mais non, en fait, ça sert à rien d'avoir du courage pour tout, pour faire tout n'importe comment.
Quand tu vois son année, même c'est... en fait,
ouais,
déjà qu'il fait pas mal d'erreurs, là encore un pénalty. Non, mais en fait, qu'est-ce qu'il va réussir?
C'est compliqué, mais en tout cas, ça n'est pas son rôle. Il y en a qui se sont défilés, lui a pris ses responsabilités et il a essayé de tirer, il l'a cadré au moins, même si c'est pas très bien tiré. Voilà, en tout cas, pour Marseille, qui ont été éliminés de la Coupe de France, et Marseille qui n'ont pas gagné depuis plus de 14 ans. Hein, et
La phrase du petit, là, fait
voilà.
Mal.
Ah, ouais, c'est compliqué. Hein, voilà, hein, Daniel aussi nous fait des signes de 14 ans, mais oui, c'est très compliqué. En tout cas, voilà. Strasbourg, par contre, se sont imposés face à Reims 2-1 à domicile. Hein. C'est les seuls, d'ailleurs, qui ont gagné au bout de 90 minutes. Mmh. Tout le reste sont allés au tir au but. Hein. On a pu voir Nice et Lorient aller au tir au but et Nice s'imposer face à Lorient au tir au but. Nice aussi, est-ce qu'ils peuvent croire à une Coupe de France pour sauver tout simplement leur saison?
Vu leur classement, oui. Ils peuvent y croire parce qu'ils se battent pour le maintien. Donc là, une Coupe de France, ouais, ils peuvent y croire, mais... Ça va être compliqué, je pense.
Bah là, Nice vont jouer contre Strasbourg.
En plus, à Strasbourg. C'est à Strasbourg ou à Nice? Parce que si c'est à Strasbourg, je pense que c'est cuit. Hein.
Ouais, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un petit choix à faire. Hein.
Si c'est à la Méno, pour moi, c'est cuit.
Oui, choix par rapport au.
Il y a un choix à faire par rapport au championnat. Est-ce que tu désires absolument aller gagner la Coupe de France? Ce qui serait superbe.
Pour qui?
Pour Nice.
Pour Nice. Mais ou alors, que ça.
Enfin bon, non, c'est à quelle valeur de gagner la Coupe de France et redescendre en Ligue 1 en Ligue 2, pardon.
Ah oui, il
vaut mieux capitaliser sur le championnat.
Parce qu'ils ont combien de points d'avance en Ligue 1?
5, mais pas
sur le premier relégable.
Ouais.
C'est chaud.
Mais après aussi, est-ce qu'ils peuvent jouer sur les deux tableaux?
C'est ça, quoi.
Ouais, bah il reste deux matchs en Coupe de France. Et t'as 5 points d'avance et 5 points d'avance sur la zone des barrages.
Oui.
Voilà. Et en vue de ce que Auxerre font.
Ouais, ils avancent pas au CERN.
Mais ils ont pas un calendrier facile aussi, Nice. Hein. Ouais, il me semble qu'ils jouent des gros après, donc
je pense
à voir.
De toute façon, au CERN, ils peuvent pas avoir de calendrier facile parce que tout est compliqué.
Ouais, tout est compliqué. Oui, même les adversaires directs sont compliqués.
Bah oui, donc.
Nantes, c'est pareil, ils mettent pas un pied devant l'autre.
C'est
compliqué. Mais il y a quand même un choix à faire dans le sens où faut pas jeter encore plus la saison qu'elle ne l'est actuellement, quoi, pour Nice. S'il y a un coup à jouer, pourquoi pas, mais bon, j'y crois moyen, moi, face à Strasbourg.
Moi, je.
Enfin, je vois Strasbourg, même s'ils peinent un petit peu en Ligue 1.
Quand on avait parlé il y a quelques semaines, moi j'avais misé sur Strasbourg.
Voilà, de toute façon, Strasbourg, ils jouent les coupes à fond.
Donc, je pense que ça
c'est vrai.
Strasbourg.
L'Europa League.
Ils ont raison, tous les gros sont tombés. Hein,
ouais, c'est ça.
Marseille.
Là, c'est
Lyon,
ouvert. Là.
Et... Bon, après, il y a Lens aussi.
Il y a Lens, ouais.
Voilà, en tout cas. Et Lens qui se sont imposés face à Lyon.
Gros match.
À Lyon. Gros match. 2-0. Lens menait 2-0. Ils pensaient avoir fait le plus dur. Mais Lyon sont revenus dans les ultimes secondes. Hein, grâce encore à une passe décisive de Tolisso. Hein, et un but de Imbert encore. Qui continue à marquer. Et franchement, on a pu assister à des tirs au but. Hein, Niakate qui a loupé son pénalty côté lyonnais. Et ce qui a tout simplement valu à Lyon de sortir sur les tirs au but. Pierre Sage qui prend sa revanche un peu sur son club.
Justement, quand tu vois le tir au but que Niakate rate, tu ne peux pas lui en vouloir à Niakate. Contrairement à Ballardi. Tu peux pas lui en... Niakate, c'est le cap.
Après, il est irréprochable depuis le début de saison.
Voilà, il est bon, Niakate. Après, c'est sûr que là, il rate.
Et il a tiré des pénaltys aussi pendant les matchs et il les a mis. Hein.
Donc, ça se joue. Le gardien a fait le boulot. Hein. Mais ouais, c'est dommage pour Lyon. Après, Lens, ils ont une telle confiance là, en ce moment que c'est con. Il faut aller les chercher.
Lyon, qui n'avait plus passé de demi-finale depuis plus de 10 ans. Il me semble que c'est ça, 10 ans. Lens. Ou un peu plus même.
Oui.
En tout cas, à l'extérieur, ça fait beaucoup plus longtemps à l'extérieur. Bon. Ça fait,
mais après,
ils
n'ont
jamais gagné, non?
Non, ils n'ont jamais gagné.
Ça, après, Lens, je pense qu'ils se sabordent depuis que Risser est courtisé par l'équipe de France. Depuis qu'il est courtisé,
c'est vrai
par
qu'il est moins
de
bon
France.
Depuis 3 matchs.
Ouais, il fait que des sorties kamikazes. J'ai l'impression de voir rouler dans les cages de Lens. Il sort, tu comprends pas. Il y a un moment, juste avant le but, il sort face à son défenseur. La balle est tapée les deux. Tolisso, il est trop court pour reprendre la balle. Je dis, mais pourquoi il fait. Et après, il crie sur son défenseur alors que c'est de sa faute à lui. Hein. Et juste après, il refait une sortie kamikaze où Tolisso, cette fois-ci, il est là. Il met la tête en retrait pour Imbert. Mais j'ai dit, depuis, il fait quelques matchs bizarres.
C'est vrai.
Je ne sais pas s'il se met une pression indirectement.
Je pense un petit peu.
Avant ça, il était parfait. Tout le monde parlait de lui. Et j'ai l'impression que dès que tout le monde parle de quelqu'un. Ça commence à foirer.
Il passait incognito.
Avant, il passait incognito, mais il faisait ses matchs. Et maintenant qu'il est dans la lumière, on commence à voir des bourdes.
Ça peut jouer.
C'est le match contre Monaco où le match est compliqué.
Ouais, t'as tout lancé. Ouais.
Voilà, en tout cas, pour la Coupe de France. Hein. Du coup, Strasbourg face à Nice. Et on va avoir les Lensois qui vont jouer face
à Toulouse.
À Toulouse, oui, exactement. Petit pronostic ?
Ouais, je vois Lens passer et Strasbourg.
Ouais, moi aussi.
Ouais, je vois une finale Lens-Strasbourg aussi.
Ouais, je vois Lens. Lens aussi peut les Strasbourg.
Donc d'accord. Vous êtes unanime là-dessus. Ok, messieurs, merci. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain qui vont accueillir Chelsea à domicile pour le match aller. Au Parc des Princes, hein. Galatasaray qui accueilleront Liverpool aussi, hein. C'est un remake d'un match qu'il y a eu en phase de poule où Galatasaray s'était imposé 1-0 et une équipe bien décimée hein, du Real Madrid qui vont accueillir Manchester City, eux aussi qui sont assez en forme, hein, en tout cas dernièrement. L'Atalanta défieront le Bayern de Munich à domicile. Newcastle accueilleront le FC Barcelone aussi. Bodo Glimt accueilleront le Sporting Lisbonne à domicile. Attention, il y en a beaucoup qui sont allés trébucher en Norvège. Et Bodo Glimt sont encore présents aujourd'hui en quart de finale, en huitième de finale de Champions League et ont toutes leurs chances contre le Sporting Lisbonne. Bayer Leverkusen qui accueilleront Arsenal. Arsenal premier qui accueilleront à domicile le match retour tout simplement jusqu'à ce qu'il sorte ou jusqu'à ce qu'il la gagne. L'Atlético de Madrid jouera aussi face à Tottenham hein, au Metropolitano. Et quelles sont vos analyses et vos pronostics sur ces matchs, messieurs?
Moi je dirais Arsenal.
Paris Saint-Germain-Chelsea.
Paris Saint-Germain-Chelsea. Bon, moi, je vois vraiment un match aller, vraiment, où peut-être il n'y aura pas un grand écart sur les matchs nuls, mais je crois que le PSG, ils ont le moral et ils ont les atouts pour prendre l'ascendance de Chelsea. Je vois une PSG, qualification du PSG.
Moi, Paris-Chelsea, je suis porteur parisien, mais je ne le sens pas. Là, je pense que Chelsea a les atouts pour nous mettre en difficulté, vu leur milieu de terrain, là, l'intensité qu'ils mettent. Et même offensivement, ils ont des joueurs à une qualité extraordinaire. Donc, Après, défensivement, c'est un peu moins bon, mais ça reste solide. Moi, je sens que Chelsea, je pense, sur les deux matchs, va éliminer Paris Saint-Germain.
Ok, mais pour le match aller, en tout cas.
Pour le match aller, je dirais une courte défaite du PSG.
Chelsea s'imposer au Parc des Princes. Jason, tu n'as pas l'air très d'accord ?
Moi, je vois plus un match nul, même si Paris est dans le dur. Ils vont être mis en difficulté, certes, par Chelsea, mais je pense qu'au Parc, ils sont capables au moins de sortir avec un nul. Peut-être se faire surprendre à Stamford Bridge, mais en tout cas, sur le match aller, je vois un match très, très, très compliqué hein, de la part des Parisiens, mais avec de l'envie. Et je pense qu'ils sont capables de faire un minimum un match nul ou d'aller chercher leur victoire à la maison.
Merci. Roi au Pedro en forme, hein, auteur de son premier hat-trick avec Chelsea. Qu'est-ce que t'en penses, Théo ?
Ah bah ça va être entre guillemets la cible à abattre, hein. Il fait peur et c'est surtout quand je vois la fragilité défensive parisienne, ça me rassure absolument pas. Dans le sens où Marquinhos, j'ai de plus en plus de mal, pour moi c'est de plus en plus fébrile. Pacho subit un petit peu du coup aussi parce qu'il doit compenser ou quoi, donc il est un petit peu moins bon.
Zabarni aussi, c'est pas l'assurance totale.
Non, Zabarni c'est horrible, je comprends pas, mais... Après, c'est des, voilà, il faut peut-être un peu de temps d'adaptation aussi, c'est compliqué.
Non, on lui a donné déjà, hein, parce que je crois que ça fait plusieurs mois qu'il est là. Donc
oui, oui, bien sûr, mais il faut quand même un petit peu de temps.
On dit toujours une saison.
Oui, c'est ça, quoi, donc à voir, mais il reste aussi assez jeune ou quoi.
Oui.
Bah, la problématique du gardien entre Chevalier et Safonov, pour l'instant remporté pour Safonov, mais je le trouve pas non plus super rassurant non plus.
Pas plus que Chevalier ?
Plus que Chevalier, dans le sens où pour moi Chevalier, malheureusement là, il a un souci de confiance. Voilà. Voilà.
Chevalier même avec l'équipe de France, ça risque d'être
compliqué. Non, à mon avis, il va pas y aller.
Ah non, parce que s'il rejoue pas avec Paris, il va pas y aller. Ouais. Là, il est tout petit dans les cages.
Mais
c'est assez dingue.
Là, on dit qu'il va pas y aller. À la base, je pense qu'il souhaitait peut-être faire passer Risser avant, mais vu Risser ce qu'il fait, peut-être que Chevalier va y aller quand même.
Mais Risser, c'est sur trois matchs, ça va.
Après Risser,
il joue pas du tout.
Lens a beaucoup de gagner la coupe, le championnat.
Et même là, clean sheet face à Metz ce week-end, c'est des voilà. C'est des choses aussi qu'on retient. Peut-être qu'il ne va pas regarder tous les matchs, mais il va retenir qu'ils ont fait un clean sheet ce week-end.
Je pense que soit il reprendra Areola.
Ouais, peut-être. Ouais.
Oui, Areola, en
parce
plus,
qu'il a l'habitude d'être troisième gardien.
Et Brice Samba.
Non, Samba, deuxième gardien.
Numéro 2.
Ah, mais vous pensez que Brice Samba mérite d'être deuxième
gardien? Non, mais.
Bon, après, ça y est, il a son statut en équipe de France.
Voilà, c'est choquant. C'est pas si choquant, ouais.
Il a son statut et Deschamps, on n'aime pas prendre.
Après, là, tu vas pas chambouler toute la hiérarchie des gardiens.
Pourquoi pas?
Non, c'est pas Deschamps, ça.
Tant que Maignan reste le numéro 1 pour l'instant.
Non, et s'il se blesse?
Ouais,
surtout que lui, c'est un gars qui se blesse beaucoup.
Ouais, il aime bien les blessures.
Donc, t'es pas à l'abri de prendre un mec qui connaît pas le poste en équipe de France. Ça
Areola,
peut être
Areola, en troisième, potentiellement.
Moi, je pense que ça va être Areola en troisième.
Ouais, je pense.
Mais
aussi.
Ouais, pour revenir sur Chelsea, je suis assez d'accord avec ce qui s'est dit autour de la table. Ça va être un match assez âpre. Ça va être compliqué pour Paris. Je pense que sur le papier, j'ai l'impression que Paris a quand même un meilleur effectif dans le sens où les joueurs, je les trouve bien meilleurs dans presque tous les secteurs du jeu. Mais physiquement, on va prendre, à mon avis, le
beaucoup
bouillon.
D'impact,
quoi.
Tu vois, beaucoup d'impact, tu
vois. On va prendre le bouillon et ça va être à partir de la 60e, il va falloir être solide sur les appuis parce que ça va être compliqué.
Ils font du individuel au milieu de terrain.
C'est ça, en fait, ça va être très très dur. Donc, à voir si Paris reste. Si Paris arrive à être un petit peu efficace devant, je pense qu'on peut remporter le match.
Après, Paris est capable, il est capable de tout, Paris. Mais la dynamique. C'est pas trop sens.
En tout cas, je ne vois pas perdre.
Mais Paris, par contre, Paris, c'est jouer les équipes anglaises.
C'est
et
vrai.
Là où il y a le petit bémol, c'est la seule équipe anglaise qui a fait douter un peu Paris, c'est Chelsea.
Parce qu'on voilà, il y a eu Villa aussi,
voilà, et Newcastle. Hein.
Ouais. Ouais, on l'a vu aussi avec avec la finale de la Coupe du Monde des Clubs.
Et Newcastle, c'est pas extraordinaire.
La finale de la Coupe du Monde des Clubs. La finale de la Coupe du Monde des Clubs, on a vu un PSG vraiment qui s'est fait laver sur tous les aspects tactiques du jeu. Oui, on a vu un PSG vraiment qui est à la déroute. Oui, mais le problème aussi, c'est que Luis Enrique.
Après, le Monseigneur, il connaît aussi bien le Paris Saint-Germain. C'est ça qui. Voilà, parce qu'avec Strasbourg, on l'a vu poser d'énormes soucis au Paris Saint-Germain.
Luis Enrique, il aura un peu vraiment. Je dirais peut-être ce match, ils vont mieux peut-être l'appréhender avec tout ce qui est vraiment le club vit, et surtout la défaite avec à Monaco et tout ça. Je crois que ça serait bien de rebondir au moins sur une victoire. Et pourquoi pas essayer de galvaniser les troupes. Il s'est dit que voilà, qu'on peut. Vraiment, si vraiment ils sont mis dans, comme on dit, dans le bon tempo, la bonne organisation des jeux, je crois que les joueurs, vraiment, ça peut être un surpassement pour eux.
Il y a quand même eu un point positif que je veux relever. C'est l'entrée de Dembélé face à Monaco. Ça m'a un peu rassuré par rapport à son état de forme. Ouais. Il a quand même changé totalement l'animation offensive.
En fait, c'est le joueur plus de Paris.
Exactement.
Est-ce qu'il va commencer
Je pense en vrai.
Il va commencer.
Peut-être qu'il va faire commencer Neves aussi. Hein.
Peut-être qu'il va avoir peur de la blessure encore.
Mais
je pense qu'il va commencer.
De toute façon, je vois pas. Il n'y a pas trop le choix. Quoi. Pour moi, c'est Dembélé, Kvaradoué et voilà quoi.
Pas de Barcola donc.
Pour moi, non.
Ah, je pense qu'il va mettre Barcola que Vara. Vara, je pense que.
Parce que
Chelsea, c'est une équipe qui joue assez haut.
C'est vrai qu'il peut faire
plus mal. Ouais, ils ont besoin d'espace.
Chelsea, ils prennent tellement de cartons rouges aussi.
En fait, si Paris s'en sort, je pense que c'est ça.
Moi, je vois bien Caicedo prendre un rouge.
Trop d'agressivité.
Non, mais il n'y a pas que lui. Il y a tout le milieu de terrain. Il prend tous
les gardiens surtout. Le gardien, je crois, depuis le début de saison, il en a pris trois des cartons.
Il y a plusieurs joueurs de Chelsea qui ont été suspendus au match retour. En fait, il y a une équipe et son. Il y en a deux, je crois.
Okay. Et même Lamine Mendes avait relevé ça.
D'accord.
Il avait relevé ça. C'est une
pour le Paris Saint-Germain, c'est Nuno Mendes.
Ouais, Mendes peut prendre. Est suspendu au match retour s'il prend un jaune encore.
C'est pas remis parce que
c'est qui son client. C'est Neto.
D'accord.
Donc, ouais, Pedro Neto.
Bah, ça dépend. Ça peut être Pedro Neto, ça peut être
Cole Palmer aussi.
Ça peut être Estevao, ça peut être
Garnacho. Ça dépend en fait. Parce que Chelsea, offensivement, ça tourne. Offensivement, il y a une variété. C'est-à-dire, n'importe quel moyen, l'équipe est permutée. Après, Cole Palmer, il peut rentrer, il peut sortir. Ouais.
Voilà, après, Garnacho, c'est plus sur le côté.
Gauche.
Mais c'est plus Estevao,
Palmer.
Estevao, Palmer, il se la dédouble souvent.
C'est ça, quoi.
Voilà, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain. Galatasaray face à Liverpool, très rapide.
Ça joue.
Galatasaray.
Et Alisson n'est pas là.
Il y a Mamardjvili qui est excellent quand il est là.
Non, je vois quand même Liverpool s'imposer, même si c'est là-bas.
Ah, Galatasaray ouais. Ils ont perdu.
Mais là, Liverpool, c'est plus même Liverpool qu'avant.
Ils ont perdu juste avant, mais on va y revenir ça juste après. Real Madrid, Manchester City.
Oh là là, c'est très compliqué le Real.
Le Real Madrid sans Bellingham. Sans Kylian Mbappé, sans Rodrigo. Kamavinga, qui ne sera pas là non plus.
Moi, je me dis, est-ce que c'est pas le match où Vinicius.
Sans Eder Militao,
il va essayer de jouer le premier rôle parce qu'on a vu cette saison, quand Kylian était souvent absent.
Il ne peut que jouer le premier rôle depuis quelques semaines.
Je pense que ça ne va pas suffire.
Quand Kylian est absent et quand Kylian est absent, on a vu aussi Gonzalo Garcia aussi qui arrive à bien rentrer dans la rotation et tout ça, qui arrive aussi par moments.
Ils sont quand même dans le dur.
Sur les dernières semaines, Vinicius, il fait ses matchs.
Il peut faire ses matchs autant qu'il veut.
Ça peut être.
Il prend trop de buts.
Il peut faire ses matchs autant qu'il veut. Si derrière ça ne suit pas, il aura beau dribbler 10 joueurs, ça ne changera rien du tout. Donc, franchement, compliqué.
Ah, je vois si tu gagnes.
Pareil.
À Bernabeu.
Ils l'ont déjà fait. C'est pas comme s'il avait pas déjà fait.
Je vois pas
si
tu dis vraiment gagner.
Ils l'ont fait en poule.
Je vois pas.
On a vu le match en poule.
Il y a trop d'absence.
Ouais, mais parce que là, tu nous as dit à Bernabeu. Mais ils l'ont déjà fait.
Mais on précise quand même. Comme ils sont déjà pris une raclée à Bernabeu, on est obligé de le rappeler. On précise que c'est à Bernabeu.
Il n'y a pas le facteur X. Rodrigo, d'habitude, qui est toujours bon là contre City.
Tout le temps, il se réveille tout le temps.
Il est pas là. Toujours trop fort contre City.
Non, contre City, il se réveille. C'est Cristiano Ronaldo. Je sais pas.
Mais là, il est.
Non, là, ligament d'ailleurs. Voilà, ligament croisé ou pas de Coupe du Monde. On ne le reverra pas avant 2027, tout simplement. On lui souhaite un bon rétablissement.
Là où le Real a de la chance, c'est que City, ce n'est pas non plus des tueurs cette année.
Ouais, mais c'est mieux quand même.
C'est mieux, mais ce n'est pas des tueurs. C'est une équipe qui reste un peu prenable quand même.
C'est pas des rigolos.
En face de poule, en tout cas, moi, si je voyais vraiment les deux équipes au complet, je pense que...
Ça joue.
Ah, je pense que Real ont largement leur chance au complet.
Oui.
Je pense qu'ils ont largement leur chance.
Parce que City,
ce
n'est pas non plus des tueurs.
Parce qu'on l'a vu même en face de poule. En face de poule, Kylian Mbappé, il n'était pas là. Je crois que Bellingham aussi n'était pas là.
C'est un match équilibré.
Bellingham et Kylian Mbappé n'étaient pas là. Mais on a vu tout de suite le match. Un match nul aurait été plus juste sur le match.
C'est
Rudiger, il a fait un peu de catch, un penalty généreusement donné aussi derrière. Quelques faits de jeu, mais voilà. Mais là, en tout cas, sans tous ces cadors, on se demande comment le Real vont réussir.
T'as du côté du Real, ils ont perdu beaucoup de cadres.
Ouais.
Et côté City, ils ont recruté deux bons cadres.
Et ils récupèrent aussi des blessés. Donc, ils récupèrent parce que là, Roumen Diaz
est de retour.
Il va y avoir une belle bataille de gardiens aussi entre Courtois et Donnarumma.
Oui, je pense que pour moi, c'est les deux meilleurs gardiens. Ça va être pas mal.
Ça va se battre en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à suivre le match. Enfin, vous n'allez pas suivre le match parce que c'est mercredi. Et mercredi, on va commenter ce match-là entre Paris Saint-Germain et Chelsea sur mon Paris FM en direct. Du coup, on espère que vous serez avec nous. On va poursuivre. Atalanta face au Bayern Munich.
Atalanta à domicile. En plus, il a reposé un peu des cadres ce week-end. Donc Kane, je pense qu'il n'a même pas joué, je crois. Kane.
Non, il n'a pas joué, il avait un petit problème aux ischios.
Donc il sera là, il sera là cette semaine, ouais, il sera en pétard, je pense.
Michael Olise.
Et l'Atalanta, c'est une équipe qui aime encaisser. Donc je pense que
ils ont créé des belles surprises à domicile, l'Atalanta, attention.
Oui, mais après, je dis pas que. Moi, je les vois perdre, mais je vois des buts dans le match. Okay. Je vois peut-être un 3-1 ou un 3-2, un truc comme ça.
Bayern, ils vont plier la qualification.
Mais jouer un match avec beaucoup de buts.
Ah, allez, vous les pliez.
Bodo Glimt Sporting, Lisbonne.
Ouais, je vois vraiment pourquoi Bodo Glimt fait une surprise. Hein.
Parce que bah là, ça sera pas vraiment une surprise.
C'est pas une surprise.
Ouais, à domicile.
Pour moi, ils vont se qualifier.
Sporting, c'est une équipe de. Oui.
Ouais, Bodo Glimt,
en fait, tout va se jouer à l'aller.
Ouais.
Parce que au Sporting, franchement, ils sont capables de mettre le feu. Et Bodo, à la maison, on sait très bien que c'est très compliqué. Mais s'ils font pas la différence de 2 buts d'écart au match aller, retenez bien. S'il n'y a pas deux buts d'écart au match aller, Bodo, ils sortent.
Ah oui ?
Alors c'est que noté. Bodo, c'est une des meilleures équipes chouchou aussi. Hein.
Il est 21h27, nous sommes dans les locaux de Montpellier.
Retenez bien. S'ils gagnent que 1-0 à l'aller, je pense qu'au retour, ils sortent.
Parce que Bodo, ils sont allés
à
San Siro.
T'as
vu ce qu'ils ont fait à San Siro ?
Faut pas sous-estimer le Sporting à domicile.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
On a pu voir avec les équipes françaises.
C'est vrai que c'est quand même le meilleur tirage pour Bodo.
Ah oui,
Sporting, c'est cool.
Mais c'est cool pour eux.
Ah, c'est cool pour eux. Et je pense que c'est cool pour les autres équipes aussi qui n'ont pas envie d'aller jouer sur le synthétique. En Norvège,
ouais,
là-bas, City, ils sont allés, ils se sont cassés les dents. Inter, ils sont allés, même en phase de poule, c'était l'équipe type, quand même.
En plus, Bodo, là, ils vont reprendre leur championnat.
Type, quand même. Je pense que si vous regardez Bodo Glimt jouer, vous dites, même quand vous êtes une grosse équipe, vous n'avez pas envie de tomber contre une équipe comme ça.
Qui joue avec une organisation de jeu parfaite et tout.
Ça joue quand même.
Les compartiments de jeu sont peaufinants. En fait, t'as comme l'impression que c'est un puzzle qui se déplace, même dans les mouvements, la coordination et un contre-attaque aussi, ils sont très cliniques. Ça, c'est des choses que, voilà. Le Sporting, il a moins de, comment dire, la moins petite faille, le moins petit
espace.
Ouvert,
c'est ouvert.
Le moins petit espace, ça peut jouer en leur défaveur.
Comme je t'ai dit, là, eux, ils reprennent leur championnat, ça peut aussi jouer. Parce que Bodo, ils sont pas premiers.
Ouais, justement, moi, je pense que
les bons résultats qu'ils ont fait,
c'est hors championnat.
Ils sont pas premiers de leur championnat.
Oui, ça, mais
donc il faut qu'ils aillent chercher des points aussi en championnat.
Le problème, quand ils arrivent en Ligue des Champions, ils se transcendent.
Mais parce qu'ils avaient pas de championnat aussi.
Ils avaient pas de championnat.
Donc ils avaient une coupure. Là, ils vont reprendre le championnat, ça veut dire 2 matchs dans la semaine. C'est différent.
Après, ils ont beaucoup de temps pour se reposer.
Messieurs, on va juste poursuivre parce que l'émission file et on a encore des sujets à traiter. Bayer Leverkusen qui accueilleront Arsenal très rapidement.
Arsenal
tous les jours.
Bayer Leverkusen.
Ouais, Arsenal.
Okay. Atlético de Madrid, Tottenham.
Alors, celui-là.
Au Metropolitano.
C'est deux équipes chelous.
Des équipes qui améliorent un peu.
Non, je mets quand même Atlético Madrid. Même si Tottenham, c'est. Après, en Ligue des Champions, c'est pas le même Tottenham, mais.
Un partout,
fou,
je dis.
C'est pas un match bizarre. Moi, je pourrais pas me prononcer.
Ouais, 2-2, 1-1. C'est vrai, moi, match nul.
J'ai un match serré où.
C'est convaincu.
Quelqu'un un peu l'emporter sur l'autre, mais je vois vraiment pourquoi avoir le cholisme avec Ademola Lookman et tout ça. Je vois mieux à l'Atlético. Je vois l'Atlético les mettre en difficulté, peut-être sur un score de 2-0.
Merci, Shakenza. On va se faire une petite pause avant de revenir avec. La Liga, le FC Barcelone qui s'impose difficilement face à l'Athletic Bilbao, hein, 1-0, grâce à un super but de Lamine Yamal, hein, et le Real Madrid qui s'impose aussi dans la difficulté, 2-1 face au Celta Vigo, et reste à 4 longueurs du Barça. On y revient juste après.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission, on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Montparis FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Montparis FM, il est 21h30, hein. Si vous venez de nous rejoindre, nous avons parlé de la Ligue 1, de la Ligue des Champions, de la Coupe de France, et nous avons parlé de la Liga et la Première Ligue. On commence avec la Liga, le FC Barcelone qui s'impose 1-0 face à l'Athletic Bilbao, et le Real Madrid aussi qui sont imposés face à Celta Vigo. Tout comme l'Atlético de Madrid qui se sont imposés 3-2 face à la Real Sociedad, Retafe qui s'impose 2-0 face au Betis Séville, hein. Retafe qui enchaîne avec un Satriano encore buteur, hein, 2 matchs de suite. Pour lui, quelles sont vos impressions sur cette journée de Liga ?
Bah, que Barcelone, même en difficulté, arrive à quand même à gagner encore. Hein. Il gagne. Le Real, bah, qui c'est très difficile aussi, mais ils ont avec Tchouaméni qui est très bien en ce moment.
Tchouaméni. C'est une version de Toni Kroos. Quand tu plies un peu les yeux, t'as l'impression de voir Toni Kroos sur le terrain.
Mais en ce moment, il faut le dire, on l'a beaucoup critiqué, mais là.
Ah, depuis le début de saison, il est bon. C'est sûr que quand il joue à son poste.
Voilà, son poste.
Il joue à son poste. C'est depuis le début de saison. Un joueur qui ne joue pas à son poste.
C'est compliqué de le
qu'on te met en plus à côté de défenseurs centraux qui sont pas bons non plus. C'est très difficile. C'est très difficile.
Après, les premières années, quand il jouait à son poste, il n'était pas non plus extraordinaire.
Il n'était pas extraordinaire. Ça dépend quand même. Parce que les premières années, si je me souviens que
la première saison qu'il a faite au Real, il n'était pas aligné comme cette année. Cette année, tu sens qu'il est à son prime.
Ah non, là, il est en taille patron. Il est en taille patron, mais avant, il était bon aussi. Hein. Je me rappelle le match contre le Barça où il neutralise Gavi, Pedri au milieu de terrain.
Oui, après, il ne faut pas se baser que sur un match.
Oui, non, ce n'était pas que sur un match, mais c'est pour vous dire que pendant ces moments-là, il était très performant et en forme au milieu de terrain. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont chercher la Liga, plus la Champions, etc. Quoi. Il est sur une taille patron, vraiment. Après, c'est sûr qu'il se blesse pas mal de temps.
Il se blesse.
Il revient, il repart, il se reblesse. C'est un peu difficile.
Quoi.
D'ailleurs, on parle de Rodri du côté du Real Madrid.
Rodri, oui, qui peut venir à son poste. Après,
Rodri, lui, qui a chopé le ballon. Oui,
de City, j'ai vu passer.
Rodri qui disait que Madrid, c'est ma ville, hein. Je veux y jouer un jour, c'est ma ville. Il l'annonçait déjà quand il a eu son ballon d'or. Hein. C'est un Espagnol, il vient de Madrid, il dit que...
Si t'as déjà un bon Tchouaméni.
Non, mais même, je pense pas que Rodri soit
parce
le...
Parce qu'ils disent plus Rodri qui va...
Non, c'est plus le même Rodri qu'avant. Hein.
Ouais.
C'est plus même
parce
Rodri,
que même à City, Rodri, tu le vois plus briller autant.
C'est plus
le
même Rodri, donc je sais pas si c'est une bonne pioche de prendre
si
Rodri.
Si tu le laisses parler, c'est qu'il y a... Si tu le laisses partir, c'est qu'il y a... Il y a Anguille sous roche.
C'est sûr que ça va être compliqué.
Après, ça reste quand même
voilà, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs.
Oui, j'ai vu passer le...
Voilà. Du coup, Atlético de Madrid qui se sont imposés 3-2 face au Betis Séville.
Franchement, ce match-là, c'était un plaisir. J'avais l'impression que c'était un match de Bundesliga. Ça attaquait dans tous les sens, des gros golasol. Ouais. Franchement, c'était un beau match et l'Atlético qui s'en sort bien. Là, j'ai l'impression que c'était pas Simeone sur le banc. Là, il a dit, les gars, lâchez-vous.
Il y a des matchs comme ça. Hein.
Ouais, mais en Liga, ça se fait de plus en plus rare, des matchs autant débridés.
Va,
là, j'avais l'impression que c'était des attaques-défense pendant tout le match. Et on a vu des buts, et franchement, c'était un plaisir. Alors que d'habitude, tu vois les matchs de l'Atlético, comme quelques temps avant, là, contre, je crois que c'était Retafe ou je ne sais plus qui. C'était contre qui, là, le match il n'y a pas longtemps, où ils perdent 1-0, je crois. Je ne sais plus.
C'était contre Retafe.
C'était Retafe, hein. Oui. C'était un match catastrophique, tu vois. Et là, franchement, j'ai pris du plaisir.
C'est pas facile de jouer contre Retafe.
Ouais,
je pense que la pire équipe de Liga, je pense, c'est Retafe.
Oui, parce que...
Ah non, parce que c'est beaucoup de fautes. Beaucoup de fautes, beaucoup d'engagement, beaucoup de tout ça, même si le temps de balle et tout ça, ils assèlent et tout.
Il y a un pressing même dans les 30 premiers mètres. Au sorti des balles, tu sens que quand il Retafe, il a bien bossé son schéma tactique et par moments, ça fait déjouer pas mal l'équipe. Ouais. C'est très difficile d'avoir un résultat contre eux, sur Retafe. Ouais.
Bah, on l'a vu, la Retafe, hein, Betis Séville, tout simplement, eux,
ils sont tombés aussi.
Ils sont tombés 2-0 hein, quand même. Hein, on a vu Anthony qui n'était pas titulaire, lui qui s'était pris un peu le bec avec quelques supporters sévillans après le derby, hein, qui n'était pas content tout simplement du match nul hein, après avoir mené 2-0. Et Anthony, lui aussi, leur a fait part. De son mécontentement tout simplement aux supporters. Est-ce que c'est peut-être lié à ça qu'il n'a pas été titulaire? Parce qu'en termes de sportif, il est excellent depuis le début de saison, en tout cas avec Séville. Voilà. On va enchaîner directement avec la Coupe du Roi. FC Barcelone qui s'impose 3-0 face à l'Atlético de Madrid. Ça n'est pas suffisant tout simplement pour aller chercher la qualification. Et la Real Sociedad, comme à l'aller, se sont imposés face à Bilbao 1-0.
Oh, franchement, le match Barça-Atlético Madrid, j'ai regardé le match et franchement, ils ont failli le faire. Hein. Quand tu vois le match, tu dis, hey, ils vont le faire. Il y avait même les supporters, tout. L'Atlético Madrid, ils sont pas sortis de leur surface. C'était incroyable. Dommage qu'ils ne l'ont pas fait. Après, en première mi-temps, Ah, tu commandes a eu ça dépend pour qui.
Dommage pour
dommage pour le foot,
pour les supporters du FC Barcelone et malheur pour les supporters de l'Atlético de Madrid.
Non, c'est sûr que en première mi-temps, tu commandes aurait pu tuer le match. Ils ont eu des occasions, Griezmann en a eu pas mal. Mais bah, ils ont pas marqué ce but là.
Ouais, Charlotte aussi. Ils ont
la Charlotte qu'elle est rentrée, elle a fait du bien.
Oui.
Et après, Yamal, c'était un mal du grand jour. Hein. Mais dommage.
Bah après, ouais, ça a été un bon match. Franchement, moi, je pensais qu'ils allaient le faire. Parce que le 3-0, il est venu quand même à 75e. Donc, tu disais qu'il y avait assez le temps. Ouais. Et après, tu sentais que Yamal, il avait tellement tiré dans ce match. Ouais. Qu'il en pouvait plus parce qu'en fait il faisait souvent des chevauchés.
Il prenait la balle,
il faisait des chevauchés. Au bout d'un moment, il commence à s'épuiser. Tu sentais, et dès qu'ils ont commencé à envoyer des centres, j'ai compris ça allait pas arriver. Que le quatrième allait pas arriver.
Est-ce qu'on peut parler aussi, excuse-moi de te couper, est-ce qu'on peut parler aussi de Ferran Torres?
C'est
compliqué.
C'est 7-8 derniers matchs qui.
De toute façon, là, les deux attaquants de Barcelone, je trouve que c'est compliqué un peu. Même Lewandowski.
Ouais, avec Lewandowski.
Oui, après, Lewandowski, ça peut se comprendre, c'est l'âge, etc. Ouais. Et même dans ça, Lewandowski est déjà meilleur dans ses placements, etc. que Ferran.
Après, Ferran,
ses appels, Ferran ne
après, Ferran, c'est pas un joueur qui est programmé pour briller toute une saison. Il a souvent des périodes où il va te claquer des buts.
C'est grave ce qu'il fait, Ferran. C'est grave.
Mais là, tu joues FC Barcelone. Des mecs comme Braithwaite, tu les mets là-bas, ils te mettent au moins 25 buts par parce que
tu sais
les balles ils arrivent en fait. T'as les occasions en fait. Tu peux mettre 25 buts et louper 70 buts. Tu vois, c'est ça la différence. Elle
il
est
marque
là.
Tous ses buts. Yamal, il est à au moins 20 passes là.
Il fait que rater des buts tout seul.
Mais après, comme je t'ai dit, ce qui est bizarre, c'est qu'il a des périodes où il va enchaîner des buts et il y a des périodes où il va avoir des gros creux.
Il a plus de 10 buts, je crois, cette année déjà, mais. C'est pas suffisant.
Après, lui, pour moi, il a jamais été programmé pour. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir aussi assez jeune.
C'est vrai.
En tout cas, voilà pour FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid. Real Sociedad, 1-0. Théo, face à Bilbao, comme à l'aller. Hein.
Même résultat, ça a été un match sérieux.
Bilbao, décevant.
Ah, très décevant.
Bah, on attend toujours mieux, mais. Je sais pas comment analyser
Nico
cette
Williams
équipe,
qui s'est sabordé en restant dans
je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il a fait une
comme
erreur.
Comme quoi, des fois, c'est, les carrières, ça peut jouer sur des petits trucs comme ça.
Il s'est dit,
hein.
Je fais le choix du cœur.
Mais lui, il m'a fait penser un peu à Mounien. Parce qu'à
l'époque,
Mounien, lui, c'était pareil, il devait partir. Il a choisi de rester et petit à petit, avec les années, on a commencé à l'écarter. Mais ouais, c'est des joueurs qui se sabordent pour leur club de cœur, quoi.
Après, c'est honorable de sa part d'être resté, mais malheureusement, en plus, il est moins bon cette saison. Quoi, donc,
Le truc, c'est un club qui ne peut pas avancer parce qu'il recrute que des basses.
Oui, ils recrutent des basses, c'est leur politique.
C'est leur politique de jeu. C'est-à-dire que
tu es toujours limité.
Non, mais c'est un petit
après, c'est louable.
C'est un ovni, entre guillemets, dans le paysage footballistique moderne. Mais c'est vrai que du coup, pour lui, ça aurait été, à mon avis, plus intéressant quand même d'aller chercher plus haut parce qu'il avait.
Il a la capacité, hein.
Et il y avait des offres. C'est lui qui a fait sciemment le choix de rester, ce qui est encore une fois très louable. Mais là, bah, pour le coup, c'est pas un choix payant, quoi.
Voilà, en tout cas, pour la Coupe du Roi, la finale qui se jouera entre Atlético de Madrid et Real Sociedad. Je pense que vous êtes tous unanimes pour dire que l'Atlético ira au bout.
C'est une finale, on sait jamais.
Franchement, après, la Sociedad, faut pas les mettre à la poubelle.
Oyarzabal.
Je sais pas. Comme on dit, c'est une finale.
Ouais, c'est une finale. C'est vrai. C'est compliqué, mais. Allez, pour la dernière de Griezmann, il faut qu'il la gagne quand même.
Mais surtout qu'on a vu le match de ce week-end, tu vois, ça se joue à pas grand-chose.
Ouais, ça se joue à grand-chose.
Donc, je sais pas.
Mais ils ont fait tourner, côté Atlético de
Madrid. Oui.
Alvarez, qui était pas titulaire, ni Griezmann non plus. Quelques petits joueurs, mais oui.
Donc, à voir.
Je pense que c'était un avant-goût. Chacun n'a pas voulu dévoiler toutes ses cartes.
Après, il n'y aura pas autant de buts, je pense, en finale. Hein.
Ah oui,
je pense que ça sera un peu plus muselé. Hein.
Ouais. On pense aussi. En tout cas, voilà pour la Liga et la Coupe du Roi. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Première Ligue. On va pas faire de points sur la FA Cup. Hein. La FA Cup, pour l'instant, suit son cours. Mais on est obligé de rappeler aussi le tirage au sort qui ont eu lieu. Manchester City qui vont recevoir Liverpool, tout simplement, en quart de finale FA Cup. Hein. Ça nous offre un choc pour ces matchs. Southampton qui recevront Arsenal. Chelsea qui recevront Port-Vale. Et West Ham ou Brentford. Pour l'instant, en tout cas, c'est West Ham qui sont en train de s'imposer face à Brentford 2-1. Qui vont peut-être recevoir Leeds à domicile. On y revient juste après. Liverpool Liverpool qui sont inclinés encore. Liverpool qui sont inclinés face
au Wolverhampton.
Wolverhampton qui peuvent peut-être y croire à ce fameux maintien. Liverpool qui s'incline face aux Wolves 2-1. Manchester City tenu en échec face à Nottingham Forest 2-2 et se font distancer encore un peu plus par Arsenal. Eux qui n'avaient pas le droit à l'erreur, plus ou moins en tout cas. Et Arsenal, eux, qui ont assuré tout simplement en s'imposant 1-0 face à Brighton. Newcastle réduit à 10 face à Manchester United, mais se sont quand même imposés 2-1 pour la première défaite de Carrick sur le banc des Mancuniens. Crystal Palace s'impose 3-1 à Tottenham après un carton rouge côté Tottenham, un carton rouge bien mérité, un carton rouge même qui sort de l'extra sportif, on pense qu'il prendra plusieurs matchs. Chelsea qui ont écrasé Aston Villa, un concurrent direct, 4-1, pourtant Villa jouait à domicile. Aston Villa, ça ne va plus de leur côté, ils ont fait revenir des anciens comme Bailey, etc., mais ils ont du mal à repartir, Jason. Quel est le problème avec aujourd'hui d'Unai Emery avec Aston Villa?
Ouais, Aston Villa, j'ai l'impression que ça commence un peu à s'essouffler. Parce que depuis un moment, ils arrachaient des victoires vraiment tirées par les cheveux. Ils jouaient contre des équipes qui sont soit milieu de tableau, soit bas de tableau. Bah, c'était des victoires toujours un peu compliquées, même à domicile. Et là, au bout d'un moment, quand ça tire, ben là, Chelsea a fait péter l'élastique. Et pourtant, ils ont mené au score. Ils ont mené au score et après, ils ont eu le show, João Pedro, qui a illuminé le match avec un triplé et une passe décisive.
Après, non, à Aston Villa, je pense qu'ils sont... Physiquement, ils sont cuits, je pense. Physiquement, ils sont cuits et au milieu de terrain, l'absence de Camara, ça les tue encore plus. Donc... T'avais Rodgers qui sortait du lot, mais bon, il peut pas faire ça toute l'année.
Même Watkins, il marque plus autant que.
Après, Watkins, ça fait depuis un an ou deux, il est moins bon qu'auparavant. Après, moi, c'était plus Rodgers qu'il pouvait, mais il peut pas tout le temps être bon tout le temps. Donc, Martinez qui est pas aussi décisif comme avant. Ah, ça va être compliqué pour eux. Je pense qu'ils vont couler petit à petit. Je les vois quand même qualifiés pour l'Europe, mais la Ligue des Champions, à mon avis, je ne pense pas.
Oui, parce que surtout, après, il faut se dire qu'ils tirent quand même une grosse... parce qu'il n'a pas un groupe qui est non plus fou,
non.
Tu vois. Et il arrive quand même à en faire une équipe qui joue les premiers rôles en Première Ligue.
Non,
et
ce qu'il fait, c'est extraordinaire.
Il faut en tenir compte.
Ah oui, non, ce qu'il fait, c'est il fait du très bon boulot, Emery, ça...
Liverpool, eux, qui sont restés à 48 points, à 3 points du podium, tout simplement. United, qui sont toujours sur le podium, qui ont profité de la défaite des vilains, tout simplement. Est-ce que Manchester City, on dit adieu au titre avec ce match nul face à Nottingham?
Moi, je pense pas. Il y a encore beaucoup de journées. Certes, là, ils sont mis une épine dans le pied, mais déjà, s'ils gagnent leur confrontation directe...
Parce que ce sont des matchs à domicile, au moins, gagner tous les matchs à domicile. C'est ce que tu dois te donner comme ordre, au moins. Parce que là, tu joues à Nottingham Forest à domicile. Tu dois au moins gagner.
Oui, c'est sûr.
C'est une contre-performance. Après, pour le championnat, je ne pense pas que ça soit fini.
Surtout qu'il y a une confrontation directe.
Si, par contre, il perd contre Arsenal, là,
c'est fini. Là, s'il perd contre Arsenal,
s'il gagne, il revient.
Mais s'il gagne, il revient, ça mettra la pression. Voilà. Ouais. Et après, Arsenal peut se chier dans les derniers matchs. On connaît comment ça se passe, les matchs à l'extérieur. En plus, surtout les Anglais, j'ai l'impression qu'ils adorent ça. Essayer de priver les titres.
Ça va jouer jusqu'à la dernière journée.
Ça me fait penser un peu comme City QPR, les trucs comme ça.
Jusqu'à la dernière
journée. Essayer de gâcher le titre d'une équipe, c'est pas on la laisse gagner comme ça sera en France. Oh, mais l'équipe B, c'est pas grave.
Non, mais ça se fait pas en France.
Arrête.
L'équipe B, on laisse
gagner. En France, souvent, quand l'équipe elle est presque championne, ça y est, les mecs ils sont maintenus, ils jouent plus rien. En Angleterre, que ce soit une équipe milieu de tableau qui est sûre d'être maintenue, ils vont pour battre l'équipe qui est première.
C'est la mentalité. Donc
c'est pour ça que je te prends le championnat français. C'est un exemple.
T'es un peu dur avec le championnat français.
Non, faut dire, c'est la
vérité. Trop dur avec notre championnat. Sinon, Stéphane va pas être très content de tout ça. Du coup, Crystal Palace qui s'impose à Tottenham 3-1. Est-ce que vous avez pu suivre le match? En tout cas, du moins, un petit résumé avec un carton rouge ultra violent.
Non, non.
Oui.
C'est pas... Le carton rouge, il est... J'ai vu la vidéo là, ça s'est pas passé comme ça.
Ok, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé?
En fait, c'est juste que Van de Ven, il a tenu le maillot.
Oui.
Carton rouge, et c'est tout. Il n'y a pas eu de. L'agression là, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu d'agression.
C'est bizarre, moi j'ai regardé le match. Hein. J'ai pas...
Non, il n'y a pas eu d'agression.
L'IA, elle est venue pendant le match.
C'est ça. En fait, il a mis le... il a tenu son maillot.
Ok.
Il est carton rouge, l'arbitre, tu l'as mis carton rouge et il est sorti. Ouais, dans le... Mais il y a... Après, parce que je suis tombé sur la vidéo où ça part au il Brésil. Met... c'est pas ça.
Il met des coups de poing.
Non, non, c'est pas ça.
Parce qu'on a
ça.
Pu voir ça.
Aussi. Non, c'est pas ça.
Ah, c'est ce qu'on se disait, c'est bizarre. De toute façon, sinon ça aurait dégénéré, je pense. Oui, tu
non, il était juste pris un carton rouge, pas que dernier défenseur.
Dernier défenseur, voilà. Ismaël Assar qui allait vers le but. Hein. Et Ismaël Assar qui était auteur d'un doublé.
Ouais, doublé.
Ismaël Assar aussi qui réalise une belle saison avec Crystal Palace. Hein. Ça serait bien que Marseille recrute un tel joueur. Mais
je crois qu'il était dans. Il était à Marseille, je pense.
Je pense aussi. À ce que passons.
Après, il y avait aussi une Nemanja, il me semble.
Ouais, mais le problème, c'est que à Marseille, je pense qu'ils l'ont très mal utilisé.
Comme Nemanja.
On le faisait. Non, Eliman Ndiaye, je pense, il s'est fait envahir par la pression.
Non, Eliman Ndiaye était bon. Même à Marseille, moi, je voyais les matchs d'Eliman Ndiaye. Eliman Ndiaye, il était bon.
Il était bon dans ses dribbles, mais devant le but, c'était très, très compliqué. Quand tu vois les buts qu'il
peut-être,
met,
mais après,
t'as l'impression
que
c'est
après.
Des buts sans faire exprès.
Oui, mais peut-être donc, après, ça vient. C'est de la confiance.
Ouais,
ça.
Mais au bout d'un moment, si le joueur a trop de pression, tu peux pas gérer aussi sa pression à lui.
Non, mais au bout de 6 mois.
Mais quand tu le voyais sur le terrain, je te promets, et là, sur le terrain, c'est abusé. Certes, dans ses dribbles, il était bon, mais devant le but, tout le monde a vu la même chose. Tu peux pas dire le contraire.
Non, moi, et après ça reste mon avis propre.
Oui,
moi, je suis pas
mais
d'accord.
C'est pas de, c'est pas de la faute de Marseille. De Marseille. Si...
Tu sais, par saison, je regarde tout autant les matchs de Marseille que ceux du Paris Saint-Germain.
Oh, moi aussi,
oui,
pareil.
Tout autant. Hein. Tu vois, comme c'est de la même façon du Barça comme Real ou Premier League, Liverpool, Arsenal ou bon, Arsenal peut-être un peu moins, mais plus Liverpool et Manchester City. C'est des matchs que je vais suivre de A à Z, vraiment. Sur 38 matchs, je peux en louper un maximum, tu vois, c'est vraiment ça. Sinon, je vais vraiment suivre tous les matchs du coin de l'œil. Et franchement,
non, il était
bon. Dans
en
le fait, jeu,
dans
il
le
était
dribble,
bon.
Ouais.
Dans, en fait, c'est... dans le jeu, en
on
fait, c'est même pas juste dans les dribbles. Oui, mais
j'ai pas dit dans le jeu, il était pas bon. Je t'ai dit devant le but.
Oui, d'accord, mais un joueur.
Ce qu'on demande à un mec qu'on ramène d'Angleterre, c'est de l'efficacité. Pas tu peux me faire tous tes Joga Bonito que tu veux.
Regarde à Everton actuellement. Il fait.
Mais Everton, il a aucune pression.
Oui,
il était là, il fait des Ronaldinesques sur le bord tout seul.
Bon, hein.
Ça fait que
oui,
des highlights. Donc c'est normal. Mais à Marseille,
oui,
à Marseille il n'a jamais tenté des dribbles comme il fait à Everton.
Oui, parce que c'est une histoire. Je suis d'accord avec toi. La pression de Marseille, elle est un peu.
Voilà. Donc on peut pas aussi mettre la faute qu'à Marseille. Si le mec, il est différent quand on l'enlève. On peut rien faire. Ismaël Assar.
Oui.
Ismaël Assar, pour moi, il a été mal utilisé parce qu'on le mettait à droite. À droite, ça devenait un tout droit.
Ouais.
Si, fallait, c'est un joueur qu'il fallait mettre à gauche. Maintenant, c'est pas de ma faute si tu le mets à Crystal Palace et qu'il devient un joueur très très bon. Parce qu'avant de venir à Marseille, il était bon en Angleterre
déjà.
Oui,
il était bon. Hein.
Donc,
Même Emile Mandia, il était, je crois que c'était le meilleur joueur
de Championship.
Mais c'est vrai qu'à Marseille, les attentes, non, il n'a pas.
Non, il a pas su répondre. Après, on ne peut pas excuser un mec qui n'a pas su répondre.
C'est toujours Marseille. Le
on a toujours dit une saison d'adaptation, mais à Marseille, apparemment,
c'est
2 mois d'adaptation.
Non,
parce qu'au bout de 6 mois, t'es déjà vendu.
Mais
c'est 2 mois maximum. C'est 2 mois, parce qu'au bout de 6 mois, t'es déjà vendu. Et faut pas être blessé, hein, parce que si t'es blessé aussi, on te vend aussi derrière. Voilà, en tout cas, on a pu voir avec Aurélie, etc. Mais bon, voilà, tout ça, c'était pour revenir à la première ligue. Hein. Arsenal, qui sont premiers de PL, avec 5 points d'avance maintenant sur Manchester City.
Ah, c'était un but chanceux, mais bon, ça leur a permis de gagner. Hein.
Un but chanceux de Saka, qui n'avait plus marqué depuis un certain temps.
Non, il marque, là, ça fait 2 semaines, il remarque, là, je crois. Il a fait au moins plus de 3-4 mois sans marquer, mais là...
Il a marqué contre Wolverhampton.
Ouais, voilà,
et là, il vient de remarquer contre Brighton, 3 matchs après.
Ah, c'est vrai, il marque pas beaucoup. Cette
année, il a 26 matchs. En 26 matchs, il a 6 buts et 3 passes.
C'est très décevant de
sa part. En sachant qu'il tire les pénaltys.
Ouais, en plus. Non, c'est très décevant de sa part.
Que 3 passes décisives.
C'est très
j'ai l'impression qu'il fait des passes décisives sur tous les corners.
Mais parce que c'est sur les corners en plus, mais non, que 3 passes décisives.
C'est pas tout dans lui qui l'est tiré. Il y avait Madoké qui l'est tiré aussi.
Ah, ok.
Et des fois, c'est dévié, tu sais, comme il y a la combinaison, donc ça lui revient même pas comme crédit.
Ah, parce que ça fait du ping-pong.
Gabriel,
Gabriel au deuxième poteau qui la renvoie pour que Gyökeres la pousse seulement à l'intérieur.
Ah, mais je pensais qu'il avait des plus grosses stats.
Non, cette année, c'est sa pire saison, je crois. Cette année-là, il est.
Oui, comptablement, je pense. Bon, après, l'année dernière, en 25 matchs, il était à 6 buts et 10 passes décisif.
Ah mais plus de passes.
Oui, parce que
il a
plus de passes D. Il
marque peu en fait.
Hein.
Ouais non, c'est pas oui.
Mais je pensais qu'il
allait
tourner autour de 10 moi.
C'était il y a 2 ans, il était bon, mais là
oui,
depuis
en 2023-2024, il a mis 16 buts
ouais.
Et 9 passes D. Et l'année d'avant, il a mis, et l'année d'avant, il en a mis 14 et 11 passes des.
Mais tu vois, Saka, voilà. Moi je trouve que c'est un joueur, je pense qu'il ne va pas quitter Arsenal.
Bah non, ouais, là, mais là, il va prolonger. Voilà. En fait, il est dans son confort. Voilà. Bah tu sais qu'il va jouer, il va jouer en Angleterre. Il va pas quitter Arsenal. Bah bien sûr. Et en jouant dans son.
Il, a son il est capitaine, il a son statut.
En plus,
il est tranquille.
De là-bas, donc,
voilà. Ah, il est tranquille. Oh oui. Est-ce en plus, s'il fait gagner la première ligue.
Mais c'est même pas vraiment lui qui l'a fait gagner. C'est pas comme si c'était le joueur clé qui manque. J'ai envie de te dire que même quand Saka n'est pas là et que Madueke est remplacé par Saka, hein, c'est encore mieux. Non, c'est encore mieux. C'est même pas c'est toi. C'est encore mieux.
Il est un peu plus dangereux parce qu'il est plus imprévisible.
Il est plus
alors
imprévisible.
Alors que Saka, c'est toujours,
Saka c'est toujours la même chose.
Je comprends, en fait.
Il longe la ligne et il rentre à gauche.
Il rentre à gauche. Et il va te feinter une fois sur deux pour aller au bout. Après, il va la pousser trop loin. Elle va sortir en 6 mètres. Il va dire, excusez-moi. Tout le monde va l'excuser parce que c'est Saka. Non, un jour, on va faire une émission où on va parler de tous ces joueurs-là qui ont floppé, tous ces joueurs-là qu'on pense être des cracks,
mais pour moi,
et
Saka,
qui ne le sont pas.
Saka, pour moi, c'était, il faisait partie du top, mais là,
a
faut
explosé.
Dire,
on se dit, c'est des joueurs à exploser.
Depuis deux ans,
ils n'ont jamais explosé. Enfin, ils explosent, mais dans le mauvais sens du terme. C'est
après,
pas
il
n'a bon,
pas été
épargné
par les blessures, mais quand même. Là,
quand même.
C'est 6 buts. Non. Quoi. Avec une équipe championne, 6 buts. Non. Si, elle est championne. C'est la championne.
Il a 24 ans. Et ils disent valeur marchande 136 millions.
Non, non.
Je vois pas qui pourrait mettre 136 millions parce que si c'est
une autre
ça,
équipe anglaise parce qu'il a le nom.
Parce que c'est parce
Arsenal,
que si, parce que si c'est ça, je sais pas Rodrigo tu le vends combien mais tu le vends un peu plus
il
quand
va
même.
Arsenal,
parce que mon Rodrigo en jouant moins de matchs, je pense qu'il est plus efficace que Bukayo Saka. C'est difficile.
Après c'est pour ça qu'on dit que souvent sur le marché anglais les Anglais coûtent très cher.
Ils coûtent très cher entre eux, ouais, il y a des
ouais. Voilà en tout cas pour la première ligue. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec la Serie A si Jason le veut bien.
Ah oui.
La Serie A, Napoli qui se sont imposés 2-1 face au Torino. Milan AC s'impose 1-0 dans le derby face à l'Inter Milan et reviennent à 7 points de leur concurrent direct. AC Milan qui réussit bien à l'Inter. Hein. En tout cas, Inter qui ont beaucoup de mal à l'AC, contre l'AC Milan. Hein. La Juventus s'impose 4-0 face à Pizza avec un but de Yildiz. Et Boga aussi qui est en train de rentrer en tant que super sub dans tout
ça. Elle est performante.
Oui. Como avec Cesc Fabregas, Como qui s'impose 2-1 face à Cagliari. Quelles sont vos impressions, messieurs ?
Alors, on va commencer par le derby milanais.
Le derby de la Madonna.
Oh là 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 là. Ben, ça fait 7 matchs, 7 confrontations que l'Inter ne bat pas le Milan. Mais comme je vous ai dit depuis le début de l'année, de toute façon, l'Inter, le championnat, ils le gagneront parce qu'ils gagnent.
Contre les petits
tous les petits. Donc et les autres, les autres, ils font des matchs nuls, des victoires par-ci par-là. Mais parce que cette année, l'Inter, ils sont trop lisibles. Quand ils jouent contre des gros, parce que leur jeu, il est trop stéréotypé. C'est balles sur les côtés et on en vend à la boîte parce qu'on a des géants dans la surface. Au bout d'un moment, ça passe plus. Franchement, le derby. Les derbys qu'on a vécu quand même il y a certaines années, c'était beaucoup mieux.
Oui.
Là, c'était un derby, il était.
Franchement,
c'était dur. Hein, franchement. Ah, c'était dur. Il y a eu quelques occasions, mais c'était très
bon
dur.
Arrêt de Maignan, la première.
Son Mkhitaryan. Il y a Di Marco aussi qui la met au-dessus. Oui. Mais franchement, il y a très peu de choses. Même quand tu vois Léao. Oh là là, il frappe, je sais pas où. Ah, franchement, c'est. Même Modric, il peut jouer encore 70 ans là, au Milan.
C'est vrai qu'il a fait un bon match en plus. Hein.
Ouais, il a fait un bon match.
Modric, mais comment qui a invité d'ailleurs une soixantaine d'amis, je pense, à lui, de Croatie. Oui,
oui j'ai
voir,
vu. Il les a tous payés
le
leur place. Ouais,
où tout a été tout frais, tout payé pour assister tout simplement à cette masterclass.
J'ai vu ça.
Du coup, Inter va finir champion.
Je pense. De toute façon, le prochain match, Milan, ils vont faire match nul. L'Inter, ils vont gagner, ils vont reprendre l'avance.
Mais, de toute façon, même avec 7
points. C'est prévisible.
Ouais. C'est toujours pareil.
Atalanta, qui ont tout simplement. Qui ont été tenus en échec, hein, 2-2. Qu'est-ce que vous en avez pensé du match de l'Atalanta qui peine un peu. Ces derniers temps, en tout cas, contre l'Udinese, ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2-2.
Ils ont le mérite d'être revenus au moins.
En plus, c'est un doublé de Scamacca, il me semble.
Scamacca, ouais. En fait, là, en Italie, en haut, là, ils avancent à petit trop, quoi. Il n'y a pas de série. Moi, pour moi, la seule éclaircie, c'est Como. Je sais pas, cette année, voilà, je le sens. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher une petite.
En fait, Como, c'est le Bologne années précédentes.
Oui, c'est vrai.
En fait, c'est une petite équipe qui sort de.
Voilà.
C'est toujours une équipe qui sort de ses ou pour éclaircir la Serie A. Sinon, après, les gros, c'est même plus joli à voir. Comme je t'ai dit, c'est une victoire par-ci, nul par-là. C'est jamais de série de 3-4 victoires d'affilée. Ah, et franchement, le championnat d'Italie...
Est-ce que ce n'est pas peut-être aussi que le niveau, en fait, le niveau de jeu est un peu évolué face aux équipes moyennes de la Serie A, qu'on suit peut-être à se réorganiser et tout ça?
Non, c'est même pas ça. Les équipes, elles se valent.
Ouais, elles se valent. Et puis peut-être l'identité de jeu aussi, que les équipes italiennes avaient avec le Catenaccio, en fait, ce fameux 4-4 de losange, peut-être cette transition rapide. Il y a certaines équipes italiennes qui l'ont plus. Beaucoup sont beaucoup plus joueuses. Cet aspect tactique aussi que l'Italie avait. Sauf qu'on le perd un peu, on voit que peut-être la Serie A, il n'y a pas une équipe qui s'envole un peu, quoi. Genre qui surclasse les autres, peut-être, à part comme tu avais dit, Como par son jeu, l'Inter aussi, peut-être par son efficacité.
Ouais.
Sinon, là, c'est mais plus en fait, les anneaux. Il y avait la Juve qui la dominait, ou soit la AC Milan, ou soit en fait l'International. Mais on sent que toutes les équipes aujourd'hui
sont
pratiquement au même niveau.
Et tu le vois avec l'équipe nationale, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Ouais.
Mais après, c'est pas qu'il y a des mauvais joueurs, ils sortent à chaque fois des bons jeunes. Mais
après, ce qui change d'avant dans le championnat d'Italie, c'est qu'il y a beaucoup d'étrangers.
Oui,
avant, il y avait beaucoup moins d'étrangers, c'était beaucoup d'Italiens. Après, quand il y avait des étrangers, c'était vraiment des top joueurs.
Ouais, c'était des top joueurs.
Alors que maintenant, ils te prennent des Argentins qui sont mid, tu vois, qui jouent à River Plate et tout, et c'est plus le River Plate d'avant.
Donc, ça
fait baisser la Serie A. Et tu le vois bien, quand ils sont en Europe, les Italiens, c'est très
mais
compliqué.
Mais après aussi, les joueurs italiens aussi non plus, peut-être. C'est pas comme à l'époque, vous avez dit, peut-être cette Serie A était le meilleur championnat. Donc ça faisait rêver peut-être tous les jeunes italiens. Aujourd'hui, beaucoup de clubs italiens, ils ont cette politique de prendre soit des joueurs, comme tu as dit, des joueurs prometteurs, essayer de les propulser après de les vendre. Comme par exemple le cas de l'Atlanta, qu'on voit que depuis pas mal d'années, en fait, il y a un travail qui a été mis, en fait, ils ont renouvelé les stades, il y a un beau jeu qui est pratiqué. Voilà, oui, en plus, il y a les centres de formation qui produisent aussi des cracks. Mais quand on regarde, ce n'est pas les équipes qui sont programmées pour aller gagner soit les championnats, ou bien essayer de faire une épopée comme Napoli l'avait fait, ou peut-être soit par le passé, Rome ou la Lazio.
Après, ils ont fait juste... une épopée en Ligue des Champions, ouais, l'Atalanta.
Oui, certes, il la gagne, mais ce n'est pas les équipes qui sont préparées pour aller gagner le Scudetto.
Parce que quand
on regarde, c'est plus le projet ultra sportif, essayer de rentabiliser, voilà, prendre des cracks, essayer de les propulser après, de les vendre. Parce que comme ça, on ne peut pas construire quelque chose de durable. Quoi.
Ouais, mais parce que pour gagner le championnat, c'est souvent les gros. Parce que les gros, même s'ils sont mauvais,
ils sont toujours au-dessus un peu.
Voilà, ils sont toujours au-dessus, ils arrivent toujours à faire la diff quand il faut.
Mais si tu t'imagines que l'Atlanta de 4 saisons, c'est gardien, c'est le même joueur que l'Avre.
Ils peuvent pas, ils ont besoin de vendre.
L'aspect aussi financier joue.
C'est important, ils ont besoin de vendre.
C'est important.
Et même quand tu vois, par exemple, l'effectif de l'Inter, il fait pitcher.
Ouais.
Tu vois, il y a des joueurs qui ne jouaient même pas en Ligue 1.
Ouais.
Quand tu vois Andy Diouf, il ne joue même pas à Lens.
Oui, c'est vrai.
Le mec, il est à l'Inter. Qu'est-ce que tu vas recruter? Andy Diouf.
Tu
vas chercher Lucien Riquet, qui est un joueur moyen en Ligue 1. Quand il était à Marseille, il est titulaire à l'Inter.
T'es champion d'Europe et tu
C'est n'importe quoi. Quand tu vois l'effectif, tu te dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça en Ligue des Champions?
En fait, ils ont renouvelé leur milieu de terrain avec Andy Diouf, mais non.
Mais non, mais...
Pas pour l'Inter, quoi.
Tu fais jouer. Mais après,
excusez-moi, monsieur, on va juste poursuivre. Il nous reste 5 petites minutes. Côté Juventus, qui sont imposés face à Pizza, 4-0, ils disent buteur, passeur décisif.
Après voilà, la Juve, comme on dit, ils ont déroulé un peu, il y a quelques entrées et tout. On sent que la Juve vraiment, ça commence à prendre forme un peu, parce qu'avec ce genre de match, ça redonne la confiance. Après vraiment là, les deux convenus, tout ça en Ligue des Champions, c'est qu'ils ont tout donné. Je crois que la Juve peut aller essayer de chercher des places européennes, mais ça sera pas, en fait, peut-être l'année d'après, s'ils sont mieux préparés, pourquoi pas essayer d'aller jouer le titre. Parce que du côté de la Lombardie, ça commence à faire parler. Il faut que la Juventus gagne au moins quand même quelque chose. Des saisons.
Parce que ça fait quand même, plusieurs années, ils n'ont pas gagné en plus.
Ça fait plusieurs années. Parce
que l'Inter a pris, Naples
a pris deux fois.
Ouais, le Milan a pris une fois.
Ça fait un moment.
Voilà, en tout cas, pour la Serie A. On va poursuivre directement avec la Bundesliga très rapidement. La Bundesliga, le Bayern Munich qui sont imposés en ayant fait tourner tout simplement leur effectif. Le Bayern de Munich qui se sont imposés 4-1 tout simplement face à Mönchengladbach. RB Leipzig qui sont imposés face à Augsbourg 2-1. Bayer Leverkusen tenu en échec face à Fribourg 3 buts partout. Dortmund se sont imposés face à Cologne 2 buts à 1 avec un nouveau but de Guirassy. Ouais. Premier, Bayern avec 66 points. Deuxième, Dortmund avec 55. Hoffenheim, troisième avec 49. Stuttgart, quatrième avec 47. Il manque quand même RB Leipzig et Leverkusen. Voilà, qui sont cinquième et sixième avec 47 points. Dortmund qui se sont détachés des autres. Hein. Bayern qui sont détachés encore des autres.
C'est le match, le classiqueur là. Voilà.
Mais Hoffenheim qui sont à 6 points de Dortmund.
Hoffenheim, franchement, très très grosse saison avec des joueurs quasiment que des Bundesliga 2. Quoi.
C'est vrai.
Et chapeau à l'entraîneur pour la saison qu'ils font.
Voilà, on va se faire une toute petite virgule hein, avant de revenir avec le quiz. Plus rien à dire sur le championnat Bundesliga, très rapide, non ?
Bon, c'est plié. Hein.
Ouais, c'est plié, pas... enfin, le Bayern qui a mis une grosse différence. Oui. Après aussi, pour les places européennes, ça va se jouer un peu entre Cologne et Hoffenheim, Leipzig, comme on a dit, et Stuttgart. Ouais. Parce que au final aussi, quand même, ils sont sur une belle lancée, comme tu as dit. En fait, il y a un beau jeu, c'est une équipe jeune et tout ça, dynamique, ça ajoute dans tous les sens. Je crois qu'ils ont peut-être un peu plus, on fait une petite marge, ou essayer de prouver, ou essayer de garder la troisième place. Leipzig aussi, c'est un peu moyen, par moment ça gagne, par moment en fait, ça perd des points. Mais concernant le Bayern, tout est déjà fait. Le Borussia Dortmund, ils sont quasiment sûrs d'être terminé deuxième, après s'ils arrivent à mieux gérer. Donc je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. La hiérarchie a été respectée, vraiment.
Voilà. Donc, on fait une petite virgule et on revient avec les quiz. Messieurs, téléphone posé sur la table et retourné. Et on va démarrer avec la première question. C'est quand tu veux. Quelle est la pire attaque de Ligue 1 ?
S.
Comment ?
Auxerre.
Non, pas Metz, c'est Auxerre. Oui, c'est Auxerre. Avec combien de buts ?
22 buts ?
Non. 30.
Non, ça avec 19 buts marqués.
Tu vois,
19 buts marqués, oui. 19 buts marqués, donc ça fait un point pour l'instant pour Moussa. Quel club de Serie A a la pire défense du championnat sans être dans les trois relégables ?
Et l'AS Vérone ?
Sans être dans les trois relégables.
Sans être dans les trois relégables. La pire défense de Serie A ? C'est l'AS Roma ?
Non.
Non, c'est pas l'AS Roma quand même. Non, moi je préfère pas.
Non, c'est pas Pise,
c'est
ils
pas
sont relégables.
Non, ils sont relégables. J'aurais pas.
Franchement, je sais. Sassuolo ?
Non. Je vous le donne ?
Vas-y.
Kaliba, monsieur ?
Cagliari.
Torino.
Ah, le Torino.
Torino avec 49 buts encaissés, oui, à égalité avec l'Hellas Vérone, mais qui ne sont pas dans les trois relégables. Et pour bien poursuivre cette question, quelle est la pire défense des cinq grands championnats ?
La pire défense
en championnat, oui, en championnat.
Wolverhampton.
La 5 Wolverhampton, tu dis ?
La pire défense des cinq grands championnats ?
Oui, européens.
Moi, je dirais ça en Allemagne. Je ne connais pas les relégables en Allemagne. Okay.
Ça n'est pas Wolverhampton, vous pouvez dire.
Attends, l'Allemagne, c'est qui c'est pas Holstein Kiel ou je sais pas qui là. Non.
Je connais pas.
En Allemagne.
Non, je connais pas.
J'ai pas les relégables en Allemagne, merde.
Mais moi, j'ai pas les relégables en Allemagne.
Moi, j'en ai quelques-uns. Vous voulez les relégables en Allemagne ?
Ouais.
C'est pas le Werder.
Il y a Edenem déjà, je sais qu'il y a Edenem. Edenem, Wolfsburg et Saint-Pauli.
Edenheim.
Non.
Non, moi c'est Wolfsburg.
Non.
J'aurais dit Wolfsburg.
Non, ça n'est pas eux non plus.
Je sais pas, ça n'est pas eux.
Mais Saint-Pauli, c'est une équipe qui fait des catenaccio, donc c'est pas possible que ce soit eux.
C'est même pas en Allemagne, ça se trouve.
Non, c'est pas en Allemagne.
J'aurais pas, je pense. Je pas.
Torino. Donc, je dois vous le dire, mais vous êtes pas bon ce soir, monsieur. Vous êtes pas bon du tout. Hein.
Attends. Espagne.
C'est peut-être l'Espagne. Hein.
Non, pas en Espagne. Non.
En France.
La pire défense.
Il est en première ligue.
En première ligue.
West Ham. Non, c'est pas West Ham. Bon, j'ai deux clubs.
Brentford, non.
Ouais, non.
Non, pas Brentford.
Bon, je vous le donne, vous êtes vraiment pas bon, messieurs, ce soir. C'est Burnley avec 58 buts encaissés. Burnley avec 58 buts encaissés, oui, c'est eux. C'est eux la pire défense, tout simplement. On poursuit. À combien de buts sont le Bayern de Munich cette saison en championnat ?
63.
63 pour toi.
Je vais dire...
80.
Jason, attends, laisse Jason, Jason, c'est un petit mal. Vas-y, Jason, c'est un petit mal. 78.
78.
Ouais,
80, moi.
80, toi?
Ouais. Je dirais peut-être 67 buts.
Hein?
Combien? 67 buts.
67.
67 buts?
Oui.
Ok. Bah non, le plus proche était Moussa.
Bah oui. Ils vont même mettre le record du bord de Barça, là.
Et ah, Bayern ouais. sont à, retenez bien messieurs, 92 buts.
Ah, oui. Wow. Ils vont battre le record de MSN cette année.
92 buts marqués côté Bayern. C'est fou.
Crois,
donc ça fait 2 points pour Moussa. Les cartes sont jouées. Dernière question quand même pour la Fame. Quelle est la pire défense de Liga
cette saison?
Cette saison.
La pire défense de Liga.
Oui.
Elche.
Non, monsieur.
Riron, non. Non, pas Riron, non.
On pourrait pas être genre Bilbao ou un truc comme ça?
Non. Non. La pire défense.
Pas Eba?
Non, pas ils sont Eba. Même pas en Ligue 1.
Ils sont
en deuxième deal. Ils
sont en deuxième deal. Non, pas Riron, pas Riron.
Ils font partie des trois derniers. Logiquement.
Osasuna?
Non.
Mallorca?
Osasuna, c'est pas dans les trois derniers. Ni
Mallorca, trois derniers?
Oui.
Qui est trois derniers même.
Y a pas là,
bon, je vais vous le donner, mais messieurs, vous êtes pas bons ce soir.
Y a pas là,
toi aussi,
pas
tu
bon
nous parles du bas du classement. Quand on regarde les choses, on regarde même pas le bas.
Oui, mais je vous dis de suivre à chaque fois. Je reviens avec ce genre de questions parce que je vous dis de suivre tous les championnats et ce qui s'y passe devant comme derrière. Et cette équipe, c'est Levante avec 45 buts encaissés.
Vous voulez dire, j'avais même zappé qu'ils étaient en première division.
En tout cas, c'est Levante, la pire défense de la Liga, messieurs. Donc, le grand gagnant aujourd'hui. Et Moussa a bien joué. Moussa, félicitations.
Moussa, il faut que
nous en tout cas, en ce moment, Moussa est tout simplement en forme. Voilà. Merci, messieurs, pour cette émission. Merci à Théo. Merci à Jason.
Merci
à Sheikh. Merci à Moussa. Merci à Jason aussi, à la technique. Et je vous dis merci à vous aussi. On se dit rendez-vous mercredi prochain pour le match en direct de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain qui accueilleront Chelsea à domicile. Et on sera là pour l'avant, après, et pour le direct aussi, pour commenter les matchs. Du coup, on va se dire bonne soirée à vous, prenez soin de vous. Bonne soirée à vous, on se dit à la semaine prochaine pour du football, encore du football, toujours du football. Bonne soirée à vous.